Nous sommes mercredi 4 décembre 2019, vous écoutez le Dojo Bar.
Bah
et nous sommes sponsorisés par SudVPN, le VPN en grève. Bonsoir à tous, bonsoir Mecton.
Yo.
Bonsoir Zergy.
Soir pour lui.
Ah, voilà, ça y est, non, c'est parce que j'ai
aussi, il est en grève.
Non, mais il est en grève demain.
La canette avait un peu de mal à s'ouvrir.
La canette était peut-être en grève. Bonsoir, Antix.
Bonsoir.
Alors, ce n'est pas encore la grève, donc vous avez le droit d'écouter le Dojo Bar. Une émission qui risque d'être longue, une émission qui va être notre bilan de fin d'année. Alors, je sais, ça arrive un poil tôt par rapport à l'année dernière, mais comme on a dû décaler 2-3 émissions, en fait, ça s'est retrouvé mal goupillé.
Voilà, avant
en fait,
la grève.
C'est tout bête.
Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le Dojo Bar va changer d'emplacement et donc on prépare le déménagement.
Alors oui, ça fait partie des problèmes, sauf qu'en réalité, je ne sais pas exactement si ce sera fait. Par contre, il y a quand même un truc. Si vous êtes extrêmement sage, mais alors vraiment extrêmement sage, il y aura un jeu concours dans lequel il y aura des trucs à gagner. Donc ça fait quand même plaisir. Si vous êtes encore plus sage, peut-être qu'il y aura un quiz dans 2 semaines, c'est-à-dire une émission qui serait juste un hors-série avec juste un quiz rigolo. Voilà. Et ça, c'est vraiment si vous êtes hyper sage. Donc voilà, donc vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Ça me rappelle le fameux « j'ai été vilaine, je dois être puni ». Et là, il installa Windows 10 sur son portable. Bref. Ça me fait rire, mais c'est pas grave. Donc, une émission qui va être placée sous le signe du bilan de fin d'année. On va commencer par les événements marquants de cette année. Il y en a eu un sacré paquet. On va essayer d'en tirer un certain enseignement si on peut. Puis on parlera des jeux marquants de cette année. Alors je suis très content parce que quand j'ai regardé tous les jeux importants qui sont sortis cette année, on en a tous parlé dans un Dojo Bar. Tous sans exception.
Nice.
Et on finira par les perspectives 2020 si on a le temps. Sachant que si on n'a pas le temps, on fera autre chose. Avant de commencer... Tout ça, merci Mecton de me l'avoir rappelé. 2-3 petites choses. Alors la première, il y a l'analyse de The Tourist sur le Dojo par Tardigrade. The Tourist, qui est un jeu qui est passé totalement inaperçu, qui pourtant est fait par Shinem, les petits Allemands qui nous avaient fait Fast RMX, Fast Racing Neo d'ailleurs, avant Fast RMX. Et qui ont fait 2-3 autres trucs très bien comme ça. Je crois que... j'ai plus leur deuxième jeu en tête. Bref, à la base, c'est des Demo Makers, et ils ont fait un jeu tout en voxel qui a été pas du tout poussé par Nintendo, alors que c'est une exclue. C'est quand même un peu dommage. Dont la presse française se contre-tape, mais alors violent, alors que Tardy dit que c'est un très très bon jeu, donc voilà, je vous recommande d'aller lire son test,
la
et éventuellement...
La presse française.
Voilà, mesdames,
voilà.
Messieurs.
La presse française.
Pas voilà. Besoin d'ajouter quelque chose. Ça se suffit à lui-même.
C'est à ce moment-là qu'on voit que l'amitié franco-allemande commence à s'effriter, hein.
C'est l'axe Paris-Berlin, tu vois. La deuxième chose, c'est que j'ai enfin publié le test sur l'Open Source Scan Converter, qui est donc un upscaler qui est extrêmement intéressant. Donc c'est pareil, je vous recommande d'aller le lire. J'ai pas fait un truc hyper hyper détaillé, je vous ai renvoyé vers plein d'autres articles où j'avais fait du beaucoup plus détaillé, mais juste pour vous donner une idée de ce que j'ai pu tester, dans quelles conditions et comment ça a marché. Voilà, sachant que c'est que ça coûte quand même nettement moins cher que tout le reste de disponible, donc je pense que c'est quand même hyper intéressant. Et la dernière chose, donc, j'ai eu la chance, l'honneur et l'immense privilège d'être interviewé par Monsieur Inks de Gamekult, pour le podcast Presse Occulte, qui est alors un podcast Gamekult Premium. Donc je suis désolé, si vous voulez entendre ce que j'ai à dire, il faudra passer à la caisse maintenant. Comme
tous les voyants sont au rouge.
Ah, tous les voyants sont au rouge. Alors c'était au rouge pendant tout le podcast. Voilà, j'étais avec ces messieurs de... Alors monsieur Bribri, de Pokébip, que je ne connaissais pas comme site, qui était un site très intéressant, site sur Pokémon. Et monsieur Frosty's Advance, que nous connaissons bien ici, de anciennement Nintendo Man et maintenant Factor News. Et on parlait donc des sites amateurs et des sites web indépendants consacrés aux jeux vidéo. Voilà. Alors la différence avec le Dojo Bar, c'est que vous sentez que c'est fait par des vrais professionnels. Hein. C'est-à-dire que le temps de parole est minuté. Enfin voilà, c'est.
Il picole pas. Le CSA.
Non, pas à ce point-là, mais Ink, c'est vraiment un mec qui maîtrise énormément son sujet. Il vous amène là où il a envie de vous amener, comme il a envie de vous amener. Il sait exactement quand passer la main. Enfin voilà, c'est vraiment.
Ouais, c'est son boulot. Hein.
C'est un métier. C'est un métier. C'est beaucoup moins suisse. L'arrache qu'ici.
Et en plus, il est suisse, ce qui explique le côté minutage.
Il n'est pas vraiment suisse parce qu'il habite à Genève, apparemment. De son propre aveu. Hein.
C'est pas mal.
Fro, maintenant, il ne travaille plus qu'à Factor News.
Fro ne fait plus que Factor News, puisque bah, Nintendo Man, c'est fini. C'est fini depuis un peu plus de 2 ans, maintenant, je crois.
Ça fait deux ans que ça a fermé.
Mais il avait un boulot à côté avant.
Il a un boulot à côté. Factor News, il fait toujours ça en amateur. Hein. Ils sont pas payés hein, chez Factor News. Il l'était avant, c'était une SARL, alors j'ai appris ça aussi entre deux, c'est-à-dire moi je pensais que c'était un site pro, enfin que c'était resté un site pro, mais apparemment non, ils ont viré la pub, ils ont viré les trackers, ils ont tout viré, et ils ont juste un Patreon qui leur permet de payer le serveur et les frais divers de déplacement, de reportage et autres. Voilà. Donc c'est sympa, mais en gros voilà, ils sont financés par le public, et je crois qu'ils touchent genre 200€ par mois, quelque chose comme ça, ils disaient 200-300€ par mois, juste via Patreon pour pouvoir financer leurs déplacements, les interviews. Donc c'est vachement intéressant parce que je pensais que c'était un site pro et ça l'a été pendant un moment. Maintenant ça ne l'est plus.
Moi j'ai toujours pensé que c'était un site amateur, tu vois.
En tout cas voilà, c'était hyper intéressant d'être avec Frosty's Advance et Bribri qui ont vraiment des expériences très différentes vis-à-vis du web amateur de manière générale et du web amateur jeux vidéo en particulier. Alors c'était très orienté Nintendo malheureusement, au grand regret de Inks, parce qu'il a les sites amateurs qui traitent de Sony ou de Microsoft ou d'autres constructeurs ou d'autres éditeurs, il n'y en a pas tant que ça. Et j'ai pas vu beaucoup de sites de fans d'Electronic Arts par exemple, étonnamment.
c'est pas UFC que choisir ça.
C'est pas gentil ça. C'est peut-être l'UFC que choisir. Bref, voilà, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais donc il y a du contenu sur le dojo cette semaine, il y en aura aussi dans les semaines à venir, alors on vous préviendra, on retweetera le truc, je pense, quand le podcast de Presse Occulte sera disponible. Moi ça m'a fait très plaisir d'y participer, j'ai pu faire un big up à plein de gens pendant le truc, donc ceux qui l'écoutent se reconnaîtront.
Ouais, pour l'écouter régulièrement, c'est un bon podcast pour ceux qui s'intéressent justement à tout ce qui est presse vidéoludique.
Oui, tout à fait, en plus j'ai été membre Premium Game Cult pendant assez peu de temps, 3-6 mois je crois, j'avais fait le truc j'avais pas le temps de tout écouter, mais c'est parti des trucs qui faisaient vraiment vraiment plaisir à écouter. Alors, très très bien gaulé.
Autre petite news presse, notre ami Oscar Lemaire de Ludistry a commencé à publier des articles sur la direction de Nintendo.
Ouh, oui j'ai vu passer ça, je suis pas encore, faut que je le Patreon lui aussi.
C'est une très bonne idée. Encore.
Mais c'est une bonne idée de lui filer du pognon.
Parce que le...
Oscar Lemaire, qui, comme Frosty's Advance, vient du dojo.
Tout à fait. Alors Frosty's Advance, non, vient pas du dojo. Mais Oscar, oui.
Et son focus sur Iwata était vraiment très 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 bien.
Voilà, donc encore une recommandation de lecture. Donc si vous vous ennuyez pendant que le site de fans de Fallout First...
Oui, ce truc existe. C'est une parodie, hein. Mais
c'est horrible comme mec. Bref. Alors bah tiens, on va commencer justement le résumé des événements marquants de l'année par le désastre Fallout 76. Je rappelle que nous ne sommes pas là pour tirer sur l'ambulance, hein, nous sommes là pour lui niquer sa race à l'ambulance, mais bien. Donc on en a parlé régulièrement tout au long de l'année, Zergy s'est fait un plaisir.
C'était le fil rouge, c'était le running gag.
Je sais pas si Bethesda va continuer, je pense qu'il est temps de le laisser mourir, Fallout 76, maintenant c'est fini, c'est bon.
Il est mort à la naissance, hein.
Il était mort-né et j'ai vu 2-3 trucs très rigolos en faisant quelques petites recherches sur les événements un petit peu de... Effectivement, alors JBC bravo, big up Karim de Bâche. Sur les événements de l'année, j'ai vu un truc très rigolo, il y a des mecs qui ont dit voilà, il y a un GameStop qui a fermé à côté de chez moi, donc ils ont vidé les stocks en fait, ils ont fait des prix sur tout. Le seul jeu qui restait en rayon, c'était Fallout 76.
Oh merde, putain.
Il y en avait genre des stocks. C'est extrêmement
bon, tu peux construire une maison avec les boîtes.
Bah peut-être, oui, peut-être. Ce serait intéressant qu'on connaisse la politique de Sony concernant le recyclage des boîtes de Fallout 76. Bref, on va peut-être pas s'étaler plus là-dessus, parce que je pense qu'on en a déjà bien parlé. Pareil, Blizzard Entertainment, qui n'aime pas la démocratie, visiblement, n'aime pas la liberté d'expression non plus, visiblement.
Préfère le pognon.
Le pognon.
Alors je sais pas si... Et qui sait, oui, enfin, qui en a mangé un petit peu, parce que... En plus de ce qu'on a vu, c'est-à-dire le bannissement du vainqueur d'un tournoi de Hearthstone qui avait crié le slogan des manifestants de Hong Kong pendant son interview finale de victoire, qui était, je crois, c'est Viva la Révolution, mais version hongkongaise, quoi. Donc je sais plus exactement ce que c'était. Ou Révolte, c'est un truc assez bête, je crois, c'est assez, en un mot, quelque chose comme ça. Bref, ils ont fait un 180 degrés autour de ça, c'est-à-dire qu'au départ ils l'avaient banni pendant un an, privé de sa prime de tournoi, puis finalement ils ont fait un 180 degrés, alors ils lui ont toujours privé de sa prise de tournoi, mais il était juste banni pendant 6 mois je crois, puis finalement il a juste été banni 3 mois, ils ont rétabli sa prime de tournoi, enfin bref, ça a été le shitstorm total, surtout qu'au même moment la NBA avait des soucis aux États-Unis, vous vous en rappelez, avec justement des gens qui avaient soutenu Hong Kong. Notamment, je sais plus, alors c'est pas le PDG de la NBA, c'est un président de club, je crois.
C'est un président de club, alors j'ai plus le nom en tête, on en avait parlé il y a un ou deux mois, je crois.
Un ou deux mois, oui. Mais bref, enfin, il y a tout un tas d'histoires autour de la censure chinoise qui ont fait que, bon, ça s'est mal passé. Zergy, oui.
Et d'ailleurs, chez Blizzard, il y en a plusieurs qui se sont barrés en réaction à ça.
Bah,
Blizzard n'a presque plus de gens pour s'occuper de sa branche jeu de stratégie.
Oui, alors ça par contre je savais pas, tiens du coup c'est intéressant, j'avais vu qu'il y avait un mouvement de manifestation chez les employés de Blizzard.
Oui, ils cramaient les boîtes sur le parking.
Tout à fait, mais je savais pas que les mecs avaient démissionné derrière. Alors du coup chapeau bas messieurs les ex-employés de chez Blizzard.
J'avoue.
Extrêmement courageux de votre part. Alors là je suis voilà. Troué.
Ils ont pris une brouette, ils ont mis leur couille dedans et ils sont barrés.
Et d'ailleurs, cette histoire avec Blizzard est assez rigolote, puisqu'il n'y a pas si longtemps, dans une interview, Bobby Kotick, donc président de Activision Blizzard, a déclaré que le jeu vidéo n'avait pas à être politique.
Bobby, si tu nous écoutes, on t'emmerde. C'est juste pour nous, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, il y aura un autre petit truc en plus du jeu concours en toute fin d'émission. Je vous invite à nous accompagner jusqu'à la fin.
Il y a des places pour le film Sonic.
Alors, en deuxième prix, on fera ça, parce qu'on est vraiment des salopes. Mais voilà, je j'assume. En autre événement un petit peu marquant de l'année, l'ouverture de l'Epic Game Store. Alors après avoir taillé le cul à tout le monde avec Fortnite qui rapporte des brouettes de billets et pas de couilles cette fois-ci à Epic Games, surtout support confondu alors que c'est un jeu gratuit, ça a été le phénomène de société qui était déjà l'année dernière mais qui j'ai l'impression s'est encore plus accentué cette année.
Ah mais donc, le bordel qu'ils ont mis avec leur trou noir.
Oui, ça... Il y a quand même des mecs qui ont regardé des streams du trou noir pendant des heures. Mmh. Bref. Donc, voilà, en dehors de Fortnite, Epic s'est lancé dans la distribution de jeux dématérialisés sur PC. Alors, je sais pas si vous avez, vous, téléchargé l'Epic Game Store.
Alors,
je suis sur Linux.
Pas du tout.
Voilà, bonne réponse, Eric.
J'ai un compte, toutes les semaines, je récupère les jeux gratos, j'ai pas installé l'installeur.
Ah putain. Donc en fait, tu es un sale profiteur, quoi.
C'est ça, exactement.
Mais est-ce que tu as joué à un seul... Non, tu as jamais joué à un seul jeu puisque tu n'as pas récupéré l'installeur.
Non, je récupère ce qui est gratos, mais le client, il n'est pas sur mon PC.
Mais est-ce que vous pensez que ça va pas... Enfin voilà, c'est quand même un sacré événement parce que Steam, ça fait partie du paysage depuis plus de 15 ans maintenant, depuis Half-Life 2 quasiment, donc 2001-2002.
Ouais, Half-Life 2, ouais, donc 2004.
2004, oui, pardon, excusez-moi. 2004, donc ça fait 15 ans que Steam, on le pensait un peu indéboulonnable de la distribution dématérialisée sur PC. Alors évidemment... Côté des gros éditeurs, genre Ubisoft, il y a Uplay, Electronic Arts, il y a Origins.
C'est pas mort, ça.
Uplay, non, bah non, il distribue toujours par là. Hein. Origins, non.
Pas non
alors,
plus.
Electronic Arts a annoncé qu'ils allaient de nouveau distribuer certains jeux via Steam.
Ou FIFA.
Bah justement, ouais, les FIFA, les Call of, les trucs comme ça.
Ah, Call of, alors, Call of c'est pas ouais, eux, évidemment.
Mais... Oui, mais ça pourrait, hein. Non, honnêtement... Tu me dirais que la licence Call of Duty est rachetée par Electronic Arts, très sincèrement, je tomberais pas de ma chaise. C'est à peu près la même soupe qui nous sert pour le reste, donc je vois pas le... Bref. Bon, du coup, est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle, finalement, parce que ça va secouer un peu le marché? Visiblement, l'Epic Game Store pratique des... Alors, ils font des jeux gratuits, voilà, mais que on est l'illustration
ouais,
parfaite.
Toutes les semaines, voilà.
Et ils font, enfin, ils essayent vraiment de prendre des parts de marché, c'est-à-dire de se dire à partir du moment où on aura 10, 15, 20% du marché, on peut peut-être arriver à faire les choses. On nous dit dans le chat que rien qu'avec les jeux gratuits, on peut déjà se faire une ludothèque vachement sympa.
Ouais, non, parce que c'est ça, je veux bien croire. C'est pas des mauvais jeux en plus. Hein. Les jeux gratuits sont plutôt bons, hein. Il y a eu Celeste il y a pas très longtemps.
Ouais, tu vois, cette semaine c'est Rayman Legends.
Putain, ça va.
Oui, oui.
Et oui, ils ont une stratégie qui est intéressante. Déjà, ils ont Fortnite, qui est un cheval de Troie absolument incroyable pour faire en sorte que les gens viennent sur leur store.
Bah, c'était notamment... le cas pour Half-Life 2 pour Steam. Hein.
Exactement.
Donc, très honnête, hein, c'était la même stratégie.
Et surtout, ils ont sécurisé pas mal d'exclusivités de jeux sur PC, en tout cas dans les boutiques dématérialisées. Notamment le cas de Borderlands, il y a eu aussi le dernier Metro, donc je crois que c'est Metro Exodus. qui est un peu la dernière minute est passé de oh on est sur Steam à bah en fait on va être exclu avec GameStore, allez vous faire foutre les gamers.
Et du coup y a risque pas, de bombe, tout ça.
Y a pas chez Mou 3 sur.
Il me semble aussi.
Si.
C'est ça qui a shifté, qui était prévu en démat Steam pour les backers de la campagne Kickstarter de Shenmue 3 et qui finalement a pivoté, puisque c'est le terme consacré, a pivoté vers l'Epic Game Store. Mais vous croyez que ça va... Enfin, je pose la question bêtement, c'est vrai que moi je ne joue que très très peu sur PC. Vous pensez vraiment qu'ils ont une petite chance d'arriver à manger un 30% de part de marché qui leur permettrait de peut-être pas tailler le cul à Steam, mais obliger Steam à revoir un petit peu sa politique de prix vis-à-vis des développeurs, par exemple, ou à revoir un petit peu sa politique d'édition, ou vous pensez que c'est juste une tentative.
C'est quoi l'argument qui a fait basculer des exclus pour des stores en ligne?
Ça, oui, on est d'accord.
Steam se prend 30% sur le prix des jeux, et l'Epic Game Store prend moins.
C'est 20%, je crois, ou 18% de mémoire.
Ouais, c'est beaucoup plus bas que Steam, c'est presque la moitié, je crois. Hein.
Ok, donc ouais, ça met une bonne concurrence dans le...
Ah, quand tu publies ton jeu à 30 balles, entre en récupérer 15 et en récupérer 30, ça fait quand même une petite différence, quoi. Alors encore plus quand tu t'appelles... quand tu t'appelles Gearbox et que tu publies Borderlands, que tu sais qu'il va bien se vendre parce que c'est une franchise qui est appréciée.
Oui, ça fait partie des trucs sur lesquels... Donc ils ont quand même une épingle. On est d'accord que c'est quelque chose qu'il va falloir garder à l'œil pour 2020 parce que ça peut bousculer un peu... Alors, ça bouscule déjà Steam.
Ouais.
Clairement, ils ont l'air d'être vénères. Ça a l'air de bousculer quelques joueurs qui sont pas très contents de changer leurs habitudes.
Après,
tu te fais une bibliothèque en démat, tu te dis « Ok, c'est bon, j'ai tout dans mon coin, machin », et d'un coup, ton machin, il est éclaté à deux endroits. Donc...
Bah, tant que t'as accès à tous tes jeux, moi ce qui me ferait plus peur, c'est que Steam fasse faillite et que ça y est, ce soit fini, les jeux, tu puisses plus, enfin, tu les auras, mais tu puisses plus du tout les lancer parce que
c'est ce sentiment de sécurité qu'on avait qui, bah, du coup, est un peu remis en cause du point de vue joueur, hein, je parle. Mais je sais pas, fondamentalement,
les joueurs PC ne sont pas habitués aux exclus.
C'est vrai que ça fait partie des trucs un peu curieux quand t'es un joueur PC, t'as l'habitude de justement pas être très emmerdé depuis le début, c'est une plateforme extrêmement ouverte, et même s'il y a des jeux qui sont distribués aujourd'hui essentiellement sur Steam, la plupart des jeux PC tu pouvais les récupérer hors Steam aussi. Pas tous, mais il y en a quand même beaucoup que tu pouvais récupérer hors Steam.
Puis tu restes quand même, il y a encore des jeux qui existent qui sont pas sur Steam et qui sont sur des launchers à part, enfin je pense à League of Legends qui je crois pas n'est sur Steam.
Je pense il y a tous les trucs Blizzard. Hein.
Bah tous les trucs Blizzard sont sur le truc propriétaire de Blizzard qui est Battle.net. D'ailleurs Activision commence à migrer chez jeux de jeu aussi. Hein.
Oui parce que la dernière fois que j'ai lancé le machin de Battle.net pour jouer à Overwatch, qui est toujours un jeu de merde, voilà. Ça c'est pour toi Overwatch.
Overhype.
Ouais non, j'ai un peu du mal, mais bref. Donc la dernière fois que j'ai lancé, j'ai vu qu'il y avait une pub pour Call of Duty. Ce qui m'a fait un peu bizarre.
C'est le bouton pour l'acheter.
Ah merde. Bon, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il y avait aussi une pub pour Warcraft 3 Remake, Remaster, ou je sais pas trop quoi, qui va sortir dans pas longtemps. Et ça c'est quand même une bonne nouvelle.
La bêta est en cours.
Warcraft 3, ça le fait. Alors, on va passer à une autre petite nouvelle. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu en vrac, hein. C'est pas dans un ordre chronologique particulier, c'est juste des événements marquants. Une émission amateur qui assume plus ou moins. J'avais noté, moi, Activision et les lootbox à tout va. Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé cette année aussi. Bobby, si tu nous écoutes, on t'emmerde toujours. Et là, on a eu 2-3 trucs un tout petit peu dégueulasses, notamment, alors Activision, je pense à 2 événements majeurs. D'abord, la mise à jour de Crash Team Racing qui a rajouté des microtransactions. Mais du coup, comme c'est dans une mise à jour, ils sont pas obligés de l'indiquer sur la boîte du jeu.
Ouais, ça c'est scandaleux.
Et ça c'est absolument scandaleux, parce que c'est vraiment contourner le truc. Et apparemment, ils avaient déjà fait la même chose dans Call of Duty Black Ops 4, en tout début d'année, je crois, février-mars, une connerie comme ça, dans lequel il y a une mise à jour qui rajoutait des lootbox. Alors que le jeu coûtait déjà 60 balles, il y avait un season pass à 50 balles, et les mecs ont rajouté par-dessus ça des microtransactions.
Mon dieu.
Mais après le lancement, tu vois, pour pas se faire pincer...
Pour pas se faire dégommer par la critique, comme ça a été le cas pour Battlefront.
Moi, je pense qu'ils sont dans une situation où ils essaient de tirer sur la corde le plus possible jusqu'à voir à quel moment ça va casser, en fait.
Mais la question étant, qu'est-ce qui va casser ? C'est-à-dire, est-ce que les gens vont arrêter d'acheter leur jeu ? Est-ce que le régulateur parce que je sais pas quelle entité, il y a pas vraiment d'entité de régulation de jeux vidéo à part le PEGI et le SRB, mais qui sont pas vraiment des entités de régulation.
Oui, parce qu'elles sont quand même aux mains des éditeurs, hein, on va le rappeler.
Tout à fait. Donc est-ce que l'État va intervenir, comme ça a été le cas en Belgique hein, d'ailleurs, hein, pour interdire le truc en disant bah,
je pense que c'est plutôt les États qui vont se mettre, qui vont mettre les pieds dedans à force.
Bah ouais, mais c'est
quand
même. Et ça fait
même... des années qu'on leur dit.
Oui, oui. Mais si bon, Emmanuel, si tu nous écoutes, bon, quand même. C'est... Alors déjà, la grève, c'est de ta faute.
Lui, il est occupé. Lui dirait plutôt, non, mais attendez, on va vous aider à les enculer, les joueurs.
Oh, c'est pas gentil.
Non, mais je suis plutôt d'accord avec Zergy.
C'est pas gentil, mais c'est vrai.
Je suis plutôt d'accord avec Zergy. T'as une manne de pognon sur lesquels ils touchent peut-être pas grand-chose, donc.
Non, mais ce que je comprends pas, c'est que. Il y a quelques années, alors c'est peut-être une idée faussée, mais je me dis que finalement, on en avait déjà discuté d'ailleurs, et peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un vrai sujet complet là-dessus, parce que je pense qu'il y aurait des choses à en dire. J'ai l'impression que le développement de jeux coûte de plus en plus cher, et qu'en fait, les modèles de distribution modernes et de rentabilité moderne ne suffisent plus. Alors, j'ai l'impression, c'est juste une impression, hein, j'ai pas de chiffres qui étayent ça, mais j'ai l'impression que quand Ubisoft met 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros dans la production d'un Assassin's Creed, en fait, les ventes de jeux ne suffisent pas à rentabiliser ces frais de production.
Le coût de développement.
Exactement.
Alors,
j'ai
est-ce
l'impression
que c'est
que
le dev ou est-ce que t'as aussi le marketing qui a tout fait exploser ?
Je sais pas. Pour moi, l'une des révolutions de Call of Duty Modern Warfare, de ce que j'ai compris, c'est que le développement a coûté 20 et le marketing 120.
Oh putain.
Donc c'est le premier jeu où le marketing a vraiment totalement explosé par rapport au budget de développement. La question étant, est-ce que t'as besoin d'avoir du marketing. Je comprends que les mecs aient besoin d'avoir du marketing. J'ai pas de souci avec ça. Ils ont besoin de le vendre, leur jeu. Ça me pose pas de problème, particulièrement. Mais je veux dire, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout d'un système dans lequel, finalement, le triple A a fini par tellement exploser en termes de budget qu'aujourd'hui, Ubisoft qui se plante sur Ghost Recon Breakpoint, ça leur a fait très très mal. Mmh. Ils se sont bananés, et d'un point de vue financier, ça leur a vraiment fait très mal. Et je me dis, bon, ils ont l'air insolites, c'est des gros aussi, mais il suffirait qu'ils se plantent 2-3 fois comme ça, et il y a moyen qu'ils soient obligés de se restructurer pour rétrécir, quoi. Hmm. C'est quand même, ça fait quand même partie du domaine des possibles.
Un deuxième crack à venir ?
Je ne sais pas, je ne l'espère pas, mais je me dis que finalement, on a déjà parlé de la polarisation entre les petits indés d'un côté et les gros triple A de l'autre, et finalement au milieu, là où on avait des studios, on va dire A ou double A,
Série B
un petit peu, mais je pense à THQ qui faisait des petits jeux sympas mais pas fous. Sur Xbox 360 ou PS3, t'en avais encore plein des jeux comme ça.
Soit ils sont passés sur mobile.
Bah c'est ça en fait, ils sont devenus soit plus petits, soit ils ont réussi à faire le saut pour devenir plus gros.
Soit c'est des jeux indés, soit c'est des jeux japonais, parce que je pense que c'est encore le seul pays où on fait des jeux fauchés mais qu'on les sort quand même à 60 balles.
Il y a Tardy qui nous dit, et c'est vrai, je me permets de le relever, je suis désolé, j'ai pas lu le chat complètement, depuis tout à l'heure, qui dit, en fait, le prix des jeux a explosé, le prix des jeux à la vente est toujours le même, ajusté de l'inflation. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais on va dire que le problème, c'est que le prix des jeux aurait dû augmenter, alors que les coûts de production, effectivement, eux, ont explosé. C'est-à-dire, je pense que si Ubisoft voulait vendre ses Assassin's Creed 70 balles le jour de leur sortie, ça marchera peut-être pas bien. Alors que finalement, il faudrait peut-être ça pour qu'ils enlèvent les microtransactions.
D'ailleurs, en parlant du Ubisoft,
au début de la période PS3 360, les jeux étaient passés à 70.
Oui, ça a gueulé.
Ils sont toujours à 70. Hein.
Bah, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est à 60. Hein.
Après, ils sont à 60 ou à 55 sur genre la Fnac. Et Nintendo, ils n'ont jamais atteint les 70, à part un ou deux jeux. Mais globalement, on est toujours à 70, hein, il me semble.
Bah, moi, ce que je remarque, c'est que les... Oui, voilà, mais il y a des coûts qui ont explosé. Clairement, il y a des coûts de production qui ont explosé, mais en même temps, il y a d'autres coûts qui ont largement diminué. Donc, l'un dans l'autre, je suis pas certain que... Enfin, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. C'est vraiment un sujet qui me paraît très étrange. La nécessité d'aller faire des lootbox, c'est-à-dire que des grosses entreprises comme Electronic Arts ou Activision se disent « on va aller prendre le risque d'être régulé comme des casinos », ça me paraît délirant. Ça peut pas être une erreur.
Il y a une raison à tout ça, c'est qu'ils ont le problème que les jeux maintenant ne se vendent essentiellement que sur la première semaine, et on voit avec des soucis comme le fait qu'un jeu comme, je vais prendre un exemple, Dishonored 2, qui est sorti je crois fin 2016, et en fait 2 semaines plus tard tu le trouves à 35 euros, Alors qu'ils coûtaient 70 à la base, hein, donc c'est quand même une grosse baisse. En fait, ils ont souci qu'un jeu sort essentiellement en première semaine et après ça a essentiellement être désinvendu. Donc ils ont besoin d'avoir des jeux qui soient rentables sur le long terme sans forcément. Pour les joueurs qui ont déjà acheté. Et l'idée de faire payer en jeu, c'est ça. Hein, c'est, l'idée des DLC, ça, c'est ça aussi. Et d'ailleurs, même si Nintendo est connu pour avoir des jeux qui se vendent très bien sur la durée, même eux font des season pass parce que je pense que la majorité des jeux qu'ils font actuellement ne sont pas rentables juste avec les ventes du jeu de base en première semaine. Quoi.
Voilà, on nous dit officiellement c'est 70€ à Micromania, mais c'est beaucoup moins cher chez les autres. Et effectivement, c'est à peu près ce que...
Alors après, est-ce que c'est 50-60 sur le site de la FNAC ou à la FNAC, le magasin?
Alors, à la FNAC, le magasin, c'est généralement les mêmes prix constatés que sur le site, hein. En général. Alors ça dépend des FNAC, parce qu'il y en a qui sont juste des franchisés, et il y en a, c'est la FNAC en propre. Mais alors, par contre, je vous donne une petite astuce, si un jour vous allez à la FNAC et que vous constatez qu'un prix est trop élevé, vous dites au vendeur, bah, sur le site web, il est vendu à tel prix, et en fait, il vous le fait à tel prix. Voilà. Nice. Donc si vous avez besoin, un jour, ça peut toujours vous servir.
L'arrivée de mon tuyau.
Oui, mais voilà, merci beaucoup. Le truc suivant, oui, Blizzard relance World of Warcraft classique. Alors ça, je l'ai noté parce que c'était quand même un des gros événements de l'année, c'est-à-dire que...
ça reste un jeu de merde.
Merci Zergy, ça fait plaisir. Je veux dire, le rétro gaming est quelque chose qui est très en vogue, surtout aux États-Unis d'ailleurs, depuis quelques années, c'est-à-dire que on voit des vagues qui vont et qui viennent, c'est-à-dire que la NES commence un peu à baisser, la Super NES commence un peu à baisser aux États-Unis, la N64 ne s'est jamais aussi bien vendue, mais je dois vous avouer que je m'attendais pas à ce qu'un MMORPG soit relancé quasiment 10 ans plus tard, 15 ans plus tard.
Et surtout avec sa version genre de base.
Vanilla, oui, c'est vraiment...
Alors, c'est pas Vanilla le jour de la sortie, c'est Vanilla avant la sortie de la première extension.
Oui, d'accord, donc c'était, on va dire, toutes les mises à jour jusqu'à la première extension,
ouais,
c'est ça?
Ouais, c'était des patchs de post-game, enfin post-level 60 à l'époque.
Ouais, je crois que c'est genre à peu près un an et demi mise à jour avec...
Alors, est-ce que ça va faire plaisir aux joueurs qui, depuis des années, disent... Ouais, c'est bien, mais c'est devenu nul à cause des mises à jour.
Alors, j'ai eu un retour là-dessus de gens qui disaient « Ah putain, c'était mieux avant. » Ils ont lancé Vanilla, ils ont fait « Ouais, mes souvenirs étaient peut-être en HD. »
Voilà, ils ont vomi sur leur clavier, ils ont fait « Non. »
Mais du coup, qu'est-ce qui allait pas? C'est le côté le jeu lui-même a vieilli?
Non, parce alors, il y a eu en gros des simplifications. Enfin, tu te retrouves vraiment sur une formule hardcore. Pour les puristes, quoi. Et mine de rien, les petites simplifications, tu sais, qui sortent au fur et à mesure, alors que tu peux accepter ou pas, hein, d'ailleurs, en jeu. Je pense, pour les gens qui connaissent au PNJ qui te file des buffs pas possibles à l'entrée de certains donjons, ah, si tu veux te faire la formule telle qu'elle a été pensée à la base, tu prends pas le buff et t'en parles pas. Donc t'as pas mal de gens qui disaient « Ouais, ça simplifie un peu le truc, et tout, on a le codex qui nous dit maintenant directement ce que sont les objectifs, tout ça. » Mine de rien, quand on te les enlève pour revenir à la formule de base, bah, ça te manque un peu, quoi.
Bah, c'est un petit peu comme de revenir... Enfin, il y a des jeux sur lesquels tu peux arriver à revenir assez facilement, mais il y a des jeux sur lesquels c'est quand même un petit peu compliqué de revenir, même ne serait-ce qu'à l'épisode 1, quand t'as fait l'épisode 2, parce qu'il y a des améliorations de qualité de vie, de temps en temps, simplement le menu un peu meilleur ou un truc comme ça, quoi.
C'est comme si tu passais de Mario Maker 2 et tu revenais sur le premier. Ouais, il y a du chemin de fait quand même.
Ouais, il y a un peu. Voilà, c'est le jeu est pas injouable, le jeu peut être très agréable. Super Mario Maker, le premier, pas de souci là-dessus. Mais oui, le 2 a tout un tas d'améliorations de quality of life finalement, c'est-à-dire là, de qualité de vie dans lequel les raccourcis sont faciles à utiliser, etc., etc., qui fait que t'arrives à revenir en arrière, mais ouais, c'est moins facile.
Mais bon, le move de Blizzard, je le trouve quand même très très intelligent parce que là, il touche. Le public de rageux qui était en mode c'était mieux avant, il a sa cam.
Je crois qu'il y avait les mecs de Dofus qui avaient fait ça. Les gens râlaient sur les améliorations
Dofus
du jeu.
Dofus classique.
En Camargue, avaient... peut-être.
Ouais. Oui, voilà, ils avaient rouvert un vieux serveur et les mecs ils avaient dit aux gens bah allez-y, on a rouvert un vieux serveur, allez jouer. Et les types c'était ah oui, c'était mieux dans mes souvenirs.
Ouais.
C'est pas impossible. Détective Pikachu, qui est devenu l'adaptation d'un jeu vidéo au cinéma la plus rentable de l'histoire. Rappelons-nous, bien que Sonic le film ne sort que dans 2 mois, donc il est possible qu'il soit détrôné. Loul. Voilà, je tenais juste à préciser, voilà, Détective Pikachu, c'est un film qui marche relativement bien, c'est très distrayant. Faut pas le voir comme autre chose qu'une distraction. Hein.
Ah non, mais ça marche. C'est du très bon popcorn movie.
Voilà, c'est exactement ça. J'ai juste à le préciser. Bowser a pris la tête de Nintendo of America.
Ça fait toujours autant bizarre. En
je trouve ça juste énorme. Je me demande, je sais pas à quel point ils l'ont pas fait exprès. C'est-à-dire que le mec est incompétent, mais il s'appelle Bowser, ils se sont dit, ah, tant pis.
Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que du coup, la figure de Nintendo of America, ce n'est plus Reggie Fils-Aimé, et ça fait quoi? Il a été pendant 15 ans, quelque chose comme ça?
Ouais.
Oh, peut-être même un... Oui, non, si, ça doit être à peu près ça, 2004. Pour moi, il est arrivé avec la... Je me rappelle qu'il a présenté la DS, donc effectivement, 2005-2006.
Il est arrivé en décembre 2003.
Ah, voilà. Merci beaucoup, Zergy.
Après, sa première apparition publique, ça devait être à l'E3 qui a suivi, du coup, voire celui de l'année d'après. Mais du coup, ça fait très étrange.
L'E3 2004, première apparition
publique. Ah, c'est celui où il a pris des noms et botté des culs ou pas?
Exactement.
Oui, voilà. C'est ça, les présentations de la DS.
Je rappelle donc Reggie Fils-Aimé, hein, name taker, ass kicker. C'est à peu près son...
Reginator, comme on l'appelle dans le milieu et sur les vidéos Nintendo aussi, parce qu'il en a fait une, il a vraiment fait Reginator.
Et je rappelle que nous avons 3 ou 4 gifs Reginator sur le forum, parce que voilà, dont le fameux What's Wrong With You, qui était quand même assez gigantesque. Alors c'était un Nintendo Direct où Reggie faisait un truc genre... Quoi, vous avez pas encore acheté de Wii U? Mais qu'est-ce qui va pas avec vous? C'est un truc comme ça, c'était assez fou, parce que c'était tellement 20e degré.
Ouais, surtout pour une console qui s'est pas vendue.
Complètement, non, mais il y avait vraiment un côté très 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 bizarre. Activision toujours, puisque lors de leur bilan de fin d'année, donc en 2019, c'était aux alentours de février-mars, une connerie comme ça, c'est genre la fin de leur année fiscale ou leur bilan d'année. Donc plus gros bénéfice de son histoire et vire 800 personnes, donc parfaitement cohérent.
Bonjour, on n'a pas de race.
Voilà, c'était simplement à noter.
Mais ils ont de la race.
Alors je crois que du moins chez Blizzard, en tout cas, ils ont viré pas mal de gens au niveau e-sport. Peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas si bien que ça.
Alors, je crois que c'est en 2018 qu'ils ont abandonné l'e-sport pour... je sais plus ce que c'était, leur jeu avec des héros de merde, là, qui devaient conclure...
Ah, Heroes of the Storm.
Voilà, oui. Ça n'a pas marché du tout.
J'allais dire Overwatch.
T'es un bâtard. Mais c'est quand même un jeu de merde. Bref, j'ai noté aussi dans les événements un petit peu intéressants de l'année, alors Riot Games, qui est donc l'éditeur de League of Legends, qui marche toujours aussi bien après 10 ans, qui a fêté ses 10 ans cette année. Il y a 150 employés qui ont protesté contre des discriminations sexuelles au sein du studio. Alors ça, c'était au mois de juin ou mai, si je me rappelle bien. Et en fait, c'est en train de se régler maintenant. Et ouais, ça va coûter apparemment très très cher à Riot Games.
Et ils ont payé !
Voilà.
D'ailleurs, en parlant de studios qui se comportent comme des connards avec leurs employés, on a aussi Quantic Dream en début d'année.
Alors,
ils ont payé,
Quantic
mais ils ont pas payé très cher. Hein.
Alors Quantic Dream, oui, qui s'était fait pincer pour des petits dessins un petit peu innocents, hein, des trucs avec des croix gammées et puis des choses comme ça. Bref, et donc les prud'hommes ont donné raison aux plaignants, et donc Quantic Dream ça a été condamné à, alors je sais plus, c'était pas grand chose.
Hein. 5 000 euros, et la personne avait demandé ce que son départ soit qualifié en licenciement du fait de ce qui s'est passé dans l'entreprise, et ça lui a été refusé.
Harcèlement, ouais. Et refusé, ouais. Oui.
2019, ça aura été aussi l'année où Microsoft s'est dit finalement Nintendo c'est pas si mal que ça. Voilà, donc Minecraft, oui, c'était déjà le cas avant. Cuphead, quelques jeux Xbox Live sur Nintendo Switch. Et
Ori.
Surtout, il y a Ori and the Blind Forest. Hellblade, Senua's Sacrifice, qui était une exclusivité Xbox. Super Lucky Sale, qui sort dans quelques jours et qui apparemment est pas si mal que ça. C'est vraiment une version très différente. Mais j'en ai vu et lu beaucoup de bien. Je suis très très curieux de tester ça.
Le Master Chief dans Smash Bros.
Non.
Alors ça, on le saura le 12 décembre au Game Awards.
Oh putain, j'espère que non. Vraiment, j'espère que non. Ça me ferait très très mal.
Eh, on a eu un épéiste, on a eu un brawler.
T'es un bâtard. Bref, voilà. Je pense qu'on a couvert un petit peu le plus important des événements de cette année. Je sais pas si vous en avez d'autres à rajouter. Alors moi, c'est tout ce que j'ai noté. Je sais qu'on nous a... si, il y a Zerky qui m'avait rajouté un truc dernière minute. Non, je l'avais rajouté.
J'aimerais bien quand même qu'on parle du bilan de l'année de la 3DS.
Alors, on fera ça tout à l'heure.
Voilà, c'était le bilan de l'année de la 3DS.
Stop, c'est pas gentil.
La SNES sur le online, tu voulais en parler ou pas?
Ouais. J'ai l'impression que la.
C'est
la...
sorti et basta, on est d'accord.
C'est ça. Et puis j'ai l'impression que surtout que. En fait, il y a plein de gens qui avaient gueulé pour la console virtuelle en disant on n'a pas envie de racheter les jeux qu'on avait déjà achetés sur Wii et sur Wii U. On leur a filé gratuitement avec un abonnement et finalement, tout le monde s'en fout.
Moi, j'ai un dernier petit truc à rajouter.
Pas certain qu'on aurait la N64 online. Hein. Voilà. Antix.
J'ai un dernier petit truc à rajouter. Parce que c'est intéressant, on en avait un peu parlé. C'était Sony absent de l'E3.
Ouh, c'est vrai.
Et quand le leader du secteur a décidé de ne pas être présent au salon le plus important du secteur, on peut se poser des questions. Ah oui, et Microsoft et Sony copient le Nintendo Direct.
Oui, mais ça... Ça n'était qu'une question de temps, hein, je suis désolé.
Maintenant, il y en a eu d'autres ou pas.
Maintenant que Nintendo a vu que c'était plus hype... Oui, le Xbox, je sais plus quoi, là, le X-Event ou... Je sais plus comment ça s'appelle.
Side, ou
X. Vice. Bref, donc ouais. Bon, bref, c'était qu'une question de temps. Ce qui est rigolo, c'est que la formule du Nintendo Direct qu'essaye de piquer Microsoft et Sony, c'est la formule d'il y a 3-4 ans que Nintendo a déjà lui-même abandonné, quoi.
J'ai cru que t'allais dire la formule qu'essaye de piquer un certain JC.
Stop. Nous ne ferons pas de blagues sur lui aujourd'hui.
Oh, ok.
Bobby, si tu nous écoutes, t'as un pote. Alors, sur une suggestion de Mecto, nous allons donc faire une première pause musicale. Nous allons écouter un morceau qui s'appelle Crossing Swords, qui vient de la bande originale de Xenoblade Chronicles 2.
Un très bon jeu.
Un jeu raisonnable, mais l'extension est mieux.
Le 1 est le mieux, le X est le mieux, et le 2, bof.
Et le Torna.
J'ai parlé en premier.
Le Torna est très bien.
Ce qui est le bien. Torna,
le Torna sauve tout.
Le Torna est très très bien. Alors j'ai eu confirmation par mon frère qui m'a dit « Oui, mais en fait, t'avais raison, le Torna est mieux que le 2. » J'ai fait « Voilà, merci. » Bref.
C'est pas très dur.
On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes. Quel bâtard. À tout de suite. Il est tout gâché. Bon.
Dur.
Salaud.
Et nous voilà de retour.
Tour.
Bar.
Je ne couperai pas au montage, je m'en fous. Nous ne sommes pas des professionnels ici, monsieur. Bref, les jeux de marquants de l'année. Alors, je vous préviens, il va y avoir une très longue liste. Nous n'allons probablement pas tout passer en revue parce qu'il y a des choses dont on a déjà parlé dans d'autres numéros, donc on fera peut-être une petite référence à d'autres trucs, sauf les choses sur lesquelles on a pu éventuellement avancer ou les jeux dont on a pas eu le temps de vraiment parler. Peut-être que de temps en temps on vous renverra sur le forum, peut-être que de temps en temps on vous renverra sur le site. C'est-à-dire que enfin, la plupart des jeux, on les a cités quelque part d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà. On va commencer par la liste des portages qu'on attendait pas vraiment mais qui sont là quand même. Alors je sais c'est un peu long comme catégorie mais voilà. Ah non, pardon, l'année de la 3DS.
Voilà.
Alors non, il y a eu deux jeux, il y a eu Kirby's Epic Rian, donc le remake d'un jeu Wii qui a presque 10 ans, et Mario & Luigi Voyage au Centre de Bowser, le remake d'un jeu DS qui a presque 10 ans.
Et qui a coulé le développeur.
Il y a Mighty No. 9 qui doit arriver aussi.
Il est toujours pas annulé. Hein. Il y a eu Persona 2 Q Labyrinthe, on comprend rien. Enfin bref, la 3DS, donc, on avait déjà dit l'année dernière, la 3DS est un peu morte, je pense que cette année, elle se retourne dans sa tombe. Enfin là, elle se retourne pas dans sa tombe, là, si techniquement, si on met un électro-aimant autour de sa tombe, on peut générer du courant tellement elle se retourne. Hein. C'est quand même assez violent. Voilà. Alors, on nous demande de faire le bilan de la Wii. Oui, Just Dance 2020 sortira bien sur Wii. Je suis très tenté de l'acheter, en vrai.
Oh putain.
Juste pour le délire. Je sais qu'il y a, alors, il y a un collectionneur un peu fou aux États-Unis qui avait essayé de réunir tous les jeux NTSC Wii. Oh. Et alors, il avait fait ça en 2017 ou 2018. Et le mec, à cette époque-là, disait « Je vais être obligé d'aller acheter 2000 de Just Dance si je veux que la collection reste complète. » ce pauvre mec, ça fait 3 ans qu'il se dit ça. Quoi.
Putain.
Je vais devoir aller acheter Just Dance pour que la collection soit complète. Voilà, donc c'est quand même...
300 000 exemplaires, je crois, la dernière fois qu'ils en ont vendu sur Wii.
Bah, en même temps, si le moteur est là, et que finalement, la seule chose qu'ils ont intégrée, c'est les animations, la motion capture, les chansons, et après c'est ça sur un disque.
Juste les chansons, c'est bon, ça suffit.
Ah ouais, voilà.
Mais tu vois, ce que je vous parlais en off, le service en ligne de Just Dance, donc pour lequel tu lâches 2 balles et t'as accès pendant 24 heures à facile 90% du catalogue de tout ce qui est jamais sorti sur un Just Dance, bah sur Wii, tu l'as plus.
Bah tu l'as jamais eu. Merci. C'est parfait. Voilà, quand on disait une émission professionnelle...
Personne ne va jouer à Just Dance pendant 24 heures. 12 balles.
Attends, c'est 2 euros.
Ah d'accord, j'avais compris.
2 euros et t'as accès à tout le catalogue pendant 24 heures. Moi je trouve que c'est pas con. Hein. Je dis que t'as une soirée entre amis avec des gens qui jouent pas particulièrement et t'as besoin de les occuper une heure pendant que le poulet est cuit. Pourquoi pas? Ça peut se tenter. Bref. Donc, la 3DS, à moins que ces messieurs de chez Ubisoft se décident à sortir Just Dance 2021 sur 3DS, je pense que la 3DS l'année prochaine, il n'y aura plus rien. Fais-moi mentir, Nintendo, mais je pense qu'il y aura
plus rien. Si elle tient jusqu'en 2021, c'est bien, elle aura fait ses 10 ans.
Alors, tu rigoles, mais Doug Bowser, le bien nommé, a dit que justement, il voulait continuer à supporter la 3DS. Alors, on ne sait pas avec quel jeu, mais ils veulent le faire.
Putain, mais maintenant que la Switch Lite est sortie, en plus, c'est quand même...
En fait, maintenant que Pokémon est sorti sur une autre console...
Oui, non, mais c'est ça. Maintenant que Pokémon est sorti sur une autre console et qu'il y a la Switch Lite qui, enfin, clairement... marche sur les plates-bandes de la 3DS, ça me paraît compliqué. Je dis pas que c'est infaisable, hein, mais ça me paraît très compliqué.
Tomodachi Live 2.
Je sais, c'est, le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, avoir une 3DS en 2019 ou même en 2020, c'est pas du tout con. Hein. T'as un catalogue gigantesque de jeux 3DS, c'est rétro-compatible avec la DS, donc t'as un catalogue encore plus gigantesque de jeux DS. Donc il y a toujours moyen
et
de trouver des choses.
Cher.
Alors, c'est pas trop cher, ça je suis d'accord avec Zergy, c'est 9, y a pas grand chose, mais c'est quand même pas très très cher, et d'occasion, alors là tu vas dans n'importe quel Zizi Cash de France et de Navarre, des jeux 3DS, t'en as à l'appel, et à tous les prix. Donc franchement, c'est pour jouer, si t'as envie de jouer, c'est vraiment hyper rentable. Maintenant, en termes de nouveaux logiciels qui sortent, enfin je veux dire, là, c'est quand même, cette année ça a été, l'année dernière c'était déjà bien lamentable, mais cette année ça a été particulièrement raide, quoi. Puis je sais pas si ça intéresse encore des gens de travailler sur un hardware qui est vieux de 10 ans et qui fait de la 3D pas si top que ça. Ouais, quoi. Et d'occasion, t'as le chargeur. Allez, bâtard. Oui. Bref, l'année de la Switch, on va parler des portages qu'on n'attendait pas vraiment, mais qui sont là quand même. Je vais les citer un petit peu en vrac. Vous avez le droit de lâcher deux mots dessus, sauf pour les trucs qui sont un tout petit peu plus intéressants. Divinity Original Sin 2 Definitive Edition.
Ce vendredi chez Limited Run.
Ce vendredi chez Limited Run pendant 4 semaines de précommande, donc ça c'est la bonne nouvelle. Visiblement un très bon portage de la version PC.
Cross-sauvegarde avec Steam.
Et cross-sauvegarde avec le PC de manière générale, parce que je crois qu'il y a une version sur GOG aussi qui est compatible, si je dis pas de conneries. Ça mériterait d'être vérifié.
Méduse, un avis.
Méduse, si tu nous écoutes. Voilà, donc un RPG à l'occidental, qui est une très bonne surprise. C'est pas un jeu qu'on attendait du tout. Enfin, je... Voilà, c'est cool. Moi, ça m'intéressait pas forcément en démat, mais là, comme il sort chez Limited, je vais peut-être me laisser tenter. Au pire des cas, je me dis, bon, c'est pas trop grave.
Au pire des cas, il y a Baldur's Gate.
Non. Oh. Parce qu'un jeu vieux de 10 ans, qu'on te fait un portage comme ça, je trouve ça un peu lamentable. Mais...
Put
surtout sans amélioration.
Sur Switch,
voilà, c'est un peu ça. Ils ont pas dû beaucoup se casser le cul. Apparemment, il y a des data miners qui avaient dit que la version FF8, on en parlera un tout petit peu après,
ah, faut
sur,
que ça s'articule, oui.
Sur Switch, était en fait la version PC émulée.
Oui.
Voilà, c'était un émulateur x86 qui était embarqué dedans.
Ah, mais ils ont complètement paumé le code, quoi.
Ah, mais ils sont obligés d'émuler une partie du code. Alors, il y a quelques assets qui ne le sont pas, mais le core game, en fait, est émulé aujourd'hui. Bon, bref. Donc là, c'est pas de l'émulation. Dragon Quest 11S, tout ça, donc...
Bon, je pense qu'on en a pas mal parlé.
Voilà. Donc
bon jeu.
On va zapper.
Alors, pour le coup, lui, il était attendu, hein. C'était le premier jeu lancé sur la console.
Oui. Mais il a mis beaucoup de temps à venir, surtout en Occident.
Bah, ils ont attendu que ça se vende bien, comme toujours avec Dragon Quest.
C'est étonnant, c'est Electronic Arts, c'est toujours pas mis sur Switch. Hein. On a FIFA, on a.
Faux. Bah non, ils peuvent
FIFA,
pas.
FIFA, Unravel 2 et c'est
tout. Il est pas compatible Switch.
Non, mais c'est peut-être une grosse connerie ça, en l'occurrence. Tu vois, les mecs, peut-être qu'ils s'en mordent les doigts.
Bah, ils ont FIFA, ça leur fera pas du fric.
Je suis pas sûr, apparemment FIFA 2019 ou 2020, je sais plus ce qui est sorti cette année, c'est FIFA 2020.
Oui.
Apparemment, ça a fait un four. Hein.
Bah, c'est FIFA 2019, ils ont changé le chiffre, c'est tout.
Alors, c'est même pire que ça, j'avais vu un truc assez rigolo. Dans Madden 2020, en fait, quand tu regardes dans les gradins, il y a des affiches. Enfin, tu sais, il y a des logos.
Des pancartes, des panneaux.
Des pancartes et machin. Et en fait, les pancartes qui sont près du terrain, il y a écrit Madden 2020. Et en fait, quand tu zoomes sur les pancartes qui sont au fond du terrain, il y a écrit Madden 2019. Véridique.
Ni fait ni à faire.
Voilà, bien joué, hein. Bien joué, les gros des cartes. Je suis désolé pour le petit sideway, mais ça méritait le coup, ça méritait d'être dit. Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Alors, Tardy en parlait tout à l'heure. Pareil, c'était une exclusivité Xbox. Finalement, ça sort sur Nintendo Switch. Je sais pas ce que ça vaut. Apparemment, il y a des gens qui ont dit que c'était très 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 bien.
Beau jeu, belle musique, très bon Metroidvania.
Il y a le monsieur de M2R qui a bossé dessus, je crois.
Donc un gage de qualité.
La démo est dispo.
Et en plus, effectivement, il y a une démo dispo qui est un peu lente à démarrer, la démo. Hein.
Oui, il y a plus
de... Moi, j'ai lâché au bout de 10 minutes, j'en avais ras-le-bol. Hein, mais...
Ah, ok.
Mais oui, moi, les trucs narratifs, surtout dans une démo, je vois pas bien l'intérêt, tu vois. C'est...
Ah, c'est le début du jeu. Hein. Après, ça se calme, mais il y en a plus.
Cuphead, dont on nous a promis une version physique qui est toujours pas là, d'ailleurs.
Mais qui est bon jeu de run and gun, très dur aussi.
Moi, je suis désolé, j'ai pas trouvé ça plus dur qu'un contrat.
Bah, c'est pas plus dur qu'un contrat, mais contrat c'est dur, donc...
Contrat c'est surtout devenu nul.
Mais je vous recommande Cuphead, c'est un super jeu.
Alors, contrat Rock Corps, dont nous ne parlerons pas, hein, je veux dire, voilà.
C'est pas celui-là où t'as ton arme qui surchauffe?
Putain, est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît? Je vais pas me sentir bien, ça va me coller des angoisses, vos conneries. Alien Isolation, alors qui... Je sais pas si c'est sorti le 2, ou si ça sort demain, genre. C'est vraiment... Alors si demain tu fais grève, tu peux jouer à Alien Isolation. Visiblement, de tous les retours qu'on a eu jusqu'à présent, c'est un excellent portage. Il y a même Digital Foundry qui est en train de dire, bah écoutez, c'est meilleur que la version PS4 à certains égards.
Il sort demain.
Bah franchement, je suis pas un grand fan de Demat, mais j'étais hyper tenté de le prendre parce que ça a vraiment l'air très 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 quali. Et c'est un portage... Voilà, et c'est un portage qui est fait par Feral Games. Alors Feral Games, il va falloir les surveiller de très très près dans les mois qui viennent, parce que je pense que c'est le nouveau Panic Button. Hein. Les mecs ont l'air d'être très 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 chauds concernant la Switch, et ils ont vraiment fait un travail remarquable de portage. Et visiblement, d'après ce que disait Digital Foundry aujourd'hui même, hein, puisqu'ils ont eu accès au jeu un petit peu avant nous, comme d'habitude d'ailleurs... Ils avaient l'air de dire plus quali que la version PS3 et Xbox 360, puisque Alien Isolation était un de ces jeux un peu hybrides qui était sorti aussi sur Xbox 360 et PS3, comme Shadow of Mordor, comme d'autres jeux comme ça, qui était donc sorti sur l'ancienne génération en même temps que sur la nouvelle. Et sur la nouvelle, il galérait un peu en termes de framerate et autres, et en termes de résolution, mais c'était plus raisonnable que sur PS3 et Xbox 360. Là, apparemment, sur Switch, à part les ombres qui ont été un petit peu baissées, enfin voilà, il y a quelques détails qui ont été baissés, mais le jeu tourne, a priori, en très haute résolution, avec un très bon anti-aliasing, à 30 images par seconde, en mode hyper quali. Voilà.
Putain, il faut qu'ils en fassent un physique, quoi. 18 gigas, c'est nimpe.
Dematonly, je suis... Mais on en a un autre hein, qui est Dematonly, qui fait un peu chier, c'est Hellblade Sacrifice. Qui, alors là, pareil, est quand même un excellent portage, il est assez bluffant. Alors ça reste, c'est l'Unreal Engine 4, c'est Alien Isolation, c'était apparemment une techno propriétaire, enfin c'était un moteur maison de développeur d'origine. Pardon. Hellblade, Seonas Sacrifice, c'est de l'Unreal Engine 4. Ils ont triché un peu puisqu'ils ont remplacé
les cinématiques.
Voilà, certains trucs qui étaient avec le moteur de jeu à l'origine ont été remplacés par des cinématiques, avec une transition seamless entre les deux. Il y a Tardy qui en a beaucoup, 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 beaucoup parlé sur le forum, et qui a même, je crois, fait un article, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il avait fait un petit article sur Hellblade. Je vous conseille d'aller lire tout ça, et c'est vraiment un retour intéressant. Ça a l'air d'être un jeu qui est vraiment très bien.
Hellblade, c'est ce jeu-là qui a été fait par un studio que Microsoft a racheté, non?
Tout ouais. À fait, et à l'origine, c'était Ninja une exclusivité Xbox. Voilà. Donc, ça a l'air d'être vraiment très très bien. Moi, c'était un des jeux qui me tentait bien, où je me suis dit, putain, Limited Run, s'il te plaît, bouge-toi le cul et fais-nous une édition de Hellblade, ça me ferait extrêmement plaisir.
Pour l'enregistrement, JBC qui demande si Alien passe si on est une flippette.
Non.
Alors, pour y avoir joué un tout petit peu sur PC, ouais, enfin, moi, le premier chapitre, tu me mettais une olive, je faisais un litre d'huile. Hein. C'est très, très... Très flip. Enfin, c'est
l'ambiance du premier film rendue à la perfection.
C'est exactement ça. C'est cette espèce de de rétrofuturisme, où qu'il est le monstre, et te planquer tout le temps, et ouais. Par contre, c'est très court. C'est ce que j'avais retenu, c'est ça. J'avais fait le premier chapitre, j'ai pas fini le jeu, ouais, mais j'avais cru comprendre que c'était très, très court.
Si tu te démerdes bien. Après, bon, t'as différents modes de difficulté, mais oui, non, non. Là, pour le coup, si tu es sujet à flipper devant les jeux, dans celui-là, la tension est vraiment très, très bien rendue.
Ouais, ça a l'air de vraiment. Enfin, moi, c'est un jeu qui me tentait beaucoup et mon PC galérait un peu à le faire tourner, mais là, maintenant, il galérait peut-être un peu moins. Donc... Mais bref, ça m'a l'air d'être très quali et le portage a l'air d'être quali. Et c'est vrai qu'on a vu quelques portages cette année, l'année dernière, qui n'étaient pas toujours au top. Donc voilà. Sur une suggestion de Monsieur Tardy, AI de Summoning Files. Alors, si je me rappelle bien, c'est un visual novel. J'ai un gros trou. Oui, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est
oui,
ça.
Moi aussi, Miss.
C'est réalisé par le gars qui a fait une trilogie de jeux dont le premier sur DS s'appelait 999, je crois. Des espèces d'enquêtes avec des histoires de voyages dans le temps et compagnie. Alors, j'ai fait que le premier qui était vraiment bien, j'ai pas fait les autres. Mais du coup, c'est son nouveau jeu.
D'accord. Donc peut-être que ça vaut le coup d'y jeter un œil. Pareil, Tardy sur le forum, on a parlé pas forcément de manière très extensive. Et on nous dit Kentaro Uchikoshi. Uchikoshi. Pour le créateur.
À tes souhaits.
Voilà, donc si vous aimez les visual novels, ça fait partie des trucs qu'on ne s'attendait pas forcément. The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition.
Qui fonctionne sur Switch alors qu'on avait dit que c'était pas possible.
Voilà, ah, encore un miracle.
Pipo Mantis qui a dit « Et pourtant il tourne ».
C'est exactement ça, putain. C'est exactement ça. Je pense que ça va devenir une phrase significative de la Switch. Alors pareil, CD Projekt Red, moi personnellement j'applaudis à deux mains. D'abord, fallait avoir les... Pareil, hein, ils ont pris leur couille, ils les ont mis dans une brouette et ils y sont allés, quoi, je veux dire. Les mecs ont des testiboules gigantesques. Bien joué.
Et très bon jeu.
Et, alors après, très bon jeu. Malheureusement, j'ai pu jouer juste une demi-heure. Donc
si tu es client de RPG à l'occidental. Post-Skyrim.
Post-Skyrim. Moi, je réserverai mon jugement pour l'instant concernant le bon jeu, mais j'applaudis de toute façon à demain l'exploit technique. Fallait oser un jeu dont on a dit qu'il avait déjà du mal à tourner sur les consoles PS4, Xbox One et autres, et qu'en fait la seule vraie manière d'y jouer c'était sur PC, fallait vraiment avoir les couilles pour le sortir. Voilà. Moi je suis assez fier. Alors on a eu aussi, et ça a été un événement sur lequel on a déjà passé une petite partie d'une émission, Final Fantasy, alors 6, 7,
non,
8, 9...
7. Y a pas le 6. Non,
y a pas le 6, merde.
Non.
7, 8, 9, 10, 12... C'est bon,
19,
j'en ai oublié aucun.
Pardon. Et 15 pockets.
Est-ce que quelqu'un en a encore quelque chose à foutre du 15?
Bah, même si le choix a dit qu'ils ont arrêté de sortir les DLC.
Oh ouais. Putain. Oh la vache.
Et le World of Final Fantasy. Si, il est pas dégueulasse. Ah bon, bref, la série principale.
Bref, donc voilà, Final Fantasy, si vous aimez Final Fantasy, il y a de quoi faire, sachant que, alors si je me rappelle bien, donc le 10 alors et 10.2 sont sortis en Asie sur une cartouche de 32 Go, donc il y a les deux jeux. En Europe sur une cartouche de 16 Go, donc il n'y a que le 10 et le 10.2. C'est un code de téléchargement qui n'est pas réutilisable. Mm-hmm. On ne dit pas de conneries. Le 12 est sorti en physique. Mm-hmm. The Zodiac Age. Le 8 est sorti en physique ou sortira en physique l'année prochaine?
En bundle avec le 7, mais en import. Du coup, il sort pas
seulement en Asie,
en
c'est ça?
Ouais.
D'accord.
Japon, si on veut être précis.
Ah oui, il y a Final Fantasy Crystal Chronicles, effectivement, le remake qui sort en 2020, on nous le précise sur le chat, et je remercie le chat au passage. On a une New Super Mario Bros. U Deluxe, donc voilà, ça y est, maintenant tu peux mettre officiellement ta Wii U au placard, tu as quasiment tous les jeux, ce qui va manquer c'est Wonderful 101 et 2-3 autres conneries.
Xeno.
Xenoblade Chronicles X, je crois que c'est tout ce qui manque, hein, maintenant.
Non, il y a Super Pikmin. Mario 3D World.
Et Pikmin 3.
Et Pikmin 3. Mais là, il reste vraiment plus grand-chose. Stop. Et Star Fox Guard,
oui.
Et Project Giant Robot. Ah non, c'est bon, celui-là, on l'a eu. Oui. Mortal Kombat 11, pourquoi? Voilà. Moi, je me suis bien éclaté dessus. Je me suis bien éclaté sur le mode histoire. Je me suis bien marave en ligne pendant la période de sa sortie. J'y ai beaucoup moins joué depuis. Il y a eu pas mal de DLC qui sont sortis entre deux.
Terminator.
Moi je trouve qu'il a peu d'intérêt en fait. Je suis un peu déçu des DLC en fait. Sindel.
Je sais pas, j'ai vu 8 Go sur la cartouche, 20 Go dans ma console. Fait, qu'est-ce qui s'est passé sur ce putain de jeu?
Et le plus étonnant c'est qu'en fait, même. Enfin, tu peux y jouer sur la cartouche en fait. C'est pas une arnaque. Enfin, c'est presque pas une arnaque en fait. Tous les modes de jeu sont bloqués sauf le versus local. voilà, tout le reste est obligé de le télécharger, donc c'est un peu la carotte. Maintenant, je suis quand même très content que un jeu relativement exigeant techniquement comme Mortal Kombat 11 sorte, et sur une version qui ne fait pas vraiment de compromis en l'occurrence. C'est-à-dire que c'est vraiment relativement quali en termes de framerate, un peu moins en termes de résolution. Il y a eu effectivement des sacrifices qui ont été faits, mais ça reste parfaitement jouable. Alors ce qui est très dommage, c'est que mes collègues ne sont pas du tout Mortal Kombat, donc du coup, moi, je joue beaucoup moins que d'autres jeux de combat que j'ai pu jouer sur Switch, où je pouvais jouer avec mes collègues facilement. C'était un peu moins facile. Ensuite, on a les exclus Tendo de qualité.
Qui ont tout été regroupés au mois de septembre.
Qui ont tout été regroupés au mois de septembre, ce qui est horrible. Arrêtez de faire ça.
Il manque le Yoshi qui est sorti... sauf le Yoshi qui est sorti en mars.
Non mais c'est ça, mais ça a été...
c'est vrai. Oui.
Et Mario Maker 2 qui est sorti avant l'été.
Voilà, mais ça a été le... Et Nintendo Labo VR qui est sorti un peu avant ça aussi. Sorti au mois d'avril, je crois. Si je dis pas de conneries.
Possible, oui.
Il me semble. Bref, donc on en parlait de toutes, on va pas revenir dessus. On voulait faire... Alors, on reviendra dessus en fait un tout petit peu après, mais... donc Nintendo Labo VR, Fire Emblem Three Houses, donc Game là c'est bon, Year. Celui-là, Game of the Year, Super Mario Maker 2, donc finalement, on a quasiment pas joué tellement il y avait d'autres trucs derrière, c'est quand même un peu triste.
Vrai, c'est-à-dire
qu'on vous rendait compte que Super Mario Maker 2 passe au second plan, c'est quand même triste. Astral Chain, Luigi's Mansion 3, Cadence of Hyrule, Tetris 99, dont on a abondamment parlé, Ring Fit Adventure, Pokémon Beat et Couteau, Yoshi's Crafted World, Demon X Machina. Il y a eu quand même du très lourd. Et je parle pas de The Stretchers, qui est sorti il y a très 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 peu de temps, et The Tourist, qui est effectivement sorti il y a encore un peu moins de temps, mais que j'ai mis dans une autre catégorie. Les petits remakes qui font plaisir, donc on a eu Collection of Mana.
Oui.
Qui était sorti au Japon à l'origine, hein, sous le nom Seiken Densetsu Collection, que j'avais acheté à mon frangin, quand j'avais fait acheter à ma femme, voilà, au Japon, pour mon frangin, qui finalement a dit « je suis deg », elle est sortie en Europe finalement. Donc lui, il est obligé de se les taper en japonais, c'est quand même un peu con. Bref, avec pour la première fois...
Ah, il n'y a pas de patch.
Non, il n'y avait pas.
Ok, d'accord.
Ah, peut-être qu'il y a maintenant, mais à l'origine, il n'y avait pas.
Dont les jeux sont sortis en Rome le lendemain.
Oh putain, oui. Et apparemment, c'est la première fois qu'on avait une traduction officielle pour Trials of Mana Seiken Densetsu 3, qui à l'origine ne bénéficiait que de fantrad. Et ça, c'est quand même plaisir. On a eu Legend of Zelda Link's Awakening, dont on a parlé aussi abondamment.
Mais toujours pas le patch.
Coucou tardi, oui.
Le patch pour quoi?
Pour Link's Awakening, pour les petits problèmes de perf et les quelques autres bugs, hein, parce qu'il n'y a pas que ça.
Ah, ce que j'ai vu qu'il a été patché, mais je sais pas ce que ça a donné.
C'était de la stabilité, comme sur 3DS. Et ensuite, il y a eu des flopés d'indés cette année, on en a retenu quelques-uns. Wargroove, donc le Advance Wars, qui a fini par sortir en physique, et en magasin, c'est-à-dire c'est pas un limited run ou un truc comme ça, donc ça c'est quand même plaisir.
Et qui a eu pas mal d'updates pendant l'année, donc il y a eu pas mal d'améliorations de qualité de vie d'ailleurs dans le jeu.
Tout à fait, et c'est une version finale qui est sur la cartouche, je tiens à le préciser, donc... c'est quand même vachement sympa, et dans l'édition donc de luxe, il y a une petite carte, il y a des petits autocollants, il y a un petit manuel, il y a un petit fascicule de stratégie qui est super cool. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est vraiment une très très belle édition, voilà, qui coûte pas très cher en plus, donc ça vaut vraiment le coup. Killer Queen Black, adaptation du jeu d'arcade. Alors pour y avoir joué avec des collègues, au départ, les mecs qui sont là genre « Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce jeu de merde ?» Et en fait, ça marche super bien. C'est hyper marrant à jouer. Nous, on l'avait essayé en 2018 avec Antix, et me semble-t-il... je suis à peu près sûr qu'il y avait Galaxies, peut-être Drosgar.
Galaxies et Drosgar.
Je crois que c'était les deux. Et on s'était bien marré aussi. Donc c'est sorti, pareil, il y a une édition physique qui contient un petit sticker pour tes Joy-Con. Ça fait toujours plaisir. Et pour ton joie chien, ça fait quand même plaisir. Baba Is You.
Oh putain, je l'ai pas encore fait. Et,
est-ce que votre cerveau a fondu en jouant au jeu de fuite?
Alors Tardy a dit que son cerveau avait fondu. Je veux bien le croire, ça a l'air d'être très prise de tête, ça a l'air d'être très 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 bien.
Ah, c'est un super jeu de puzzle, par contre je pense pas qu'il soit... Enfin, moi je l'ai pas fini, hein. Il m'est tombé des mains, mais c'était très 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 bien. Hein.
Après l'idée d'Urba c'est très bien, le problème c'est est-ce que t'arrives à le tenir sur 200 niveaux sans être blasé au bout d'un moment.
Alors, le développeur, oui, réussir à finir le 200 niveaux, c'est un peu plus compliqué.
Tardy nous dit effectivement que Baba Is You, c'est quand même relativement hardcore. Génial, mais hardcore. On nous demande aussi que Killer Queen Black, ça marche si on n'est pas 6. Oui, ça marche à partir de 4. Le problème, c'est que... ce que je trouve très dommage, et là, je pense que les mecs ont un peu chié dans la colle, c'est qu'on peut pas jouer à 8 sur la même console. Et ça, c'est quand même hyper con, parce que connecter 8 Joy-Con, c'est faisable. Il y a d'autres jeux qui l'ont fait. Et franchement, ça aurait été vachement bien qu'on puisse le faire. Voilà. Mais après, on peut jouer quand on n'est pas 6, oui, on peut jouer à 4 contre des bots, on peut jouer à 4 en ligne, parce que c'est quand même un jeu qui se joue essentiellement en ligne. On peut faire du 2 contre 2 en rajoutant des bots, sachant que les bots, en fait, ils ont quand même un comportement assez... enfin, pas trop con. Mm. Donc ça marche assez bien. Ça, là-dessus, on arrive à s'en sortir. J'ai retenu aussi Katana Zero, qui était un petit jeu indé avec une ambiance très particulière. Miami, c'est ça, ouais. Avec du néon années 80 qui avait l'air de plutôt bien marcher. Untitled Goose Game, qui était un des jeux un petit peu spéciaux de la fin d'année, avec tout un tas de mèmes associés à cette putain d'oie, qui est quand même... voilà, j'ai même vu un Untitled Goose Game IRL, c'est-à-dire une oie qui faisait chier le monde dans un parc. C'était assez gigantesque. C'est là que tu vois que ils ont du motion capture une oie, quoi, c'est pas possible, c'est vraiment exactement les mêmes mouvements, quoi. Les mêmes mouvements, le même comportement de merde, où l'oie fait onk, onk, machin, en volant, puis elle se réchappe en titubant à moitié. Enfin, moi, c'était assez drôle. The Tourist, dont Hardy a parlé abondamment, il y a un article sur le dojo, vous pouvez aller le lire. Ukulele and the Impossible Lair, qui apparemment est passé relativement inaperçu, et c'est un peu dommage. Alors, il est un peu tombé pendant le...
Il a pas été annoncé de nulle part, et enfin, moi,
il est tombé dans le tunnel de septembre.
Oui, puis moi j'avais pas compris avant que j'entende parler chez Gamekult que c'était un jeu de plateforme à la Donkey Kong, au lieu d'être un truc à la Banjo.
Ouais, et en fait ça marche vachement bien, c'est super sympa comme jeu. C'est vraiment un très 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 bon jeu de plateforme. Et si t'aimes bien les jeux de plateforme type Donkey Kong, effectivement, c'est-à-dire où tu vas collecter des trucs au fur et à mesure. Alors là, en l'occurrence, c'est pas des lettres, c'est des pièces avec des numéros dessus. Des plumes, parce que évidemment, c'est les ukulele, c'est les plumes. Voilà, ça ressemble beaucoup beaucoup à un Donkey Kong Country Tropical Freeze, mais ils arrivent quand même à se différencier avec 2-3 mouvements intéressants. Le principe du jeu est plutôt sympa. C'est quand même très dommage que ce soit passé inaperçu. Et j'avais noté aussi dans les indés un peu rigolos Blazing Chrome, qui est donc entre le Contra et le Metal Slug, avec des musiques Mega Drive bien senties et des effets spéciaux, des effets visuels qui ressemblent beaucoup à ce que faisait Sparkster. C'est une espèce d'énorme hommage à justement tous les run and gun des années 80 et 90. C'est très 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 amusant. Il y a une édition physique qui a été sortie par Limited Run. Voilà, donc personnellement j'y ai joué en Tipiak, j'avoue, mais j'ai commandé l'édition physique. Eh oui, parce que voilà. Oui, c'est Turrican, on nous dit aussi, effectivement, voilà, c'est entre Contra, Turrican et Metal Slug, ça reprend des éléments de Contra, ça reprend des éléments de Turrican, ça reprend des éléments de Metal Slug, ça marche très très bien. Et voilà, si t'aimes bien les jeux d'action, c'est mieux que Contra Rock Corps, étonnamment.
Incroyable.
Voilà. Et je finis par Dragon Quest Builder 2, qui est un des petits jeux de rien du tout, hein, Dragon Quest Builder 2.
Ça marche tellement bien.
Ça marche très très bien, et on en a aussi parlé dans un dojo bar, donc on viendra pas trop dessus. La démo est disponible sur l'eShop pour ceux que ça intéresse, pour faire la première île du jeu. Donc il y a le tuto, il y a plein d'autres trucs dedans, et ça a l'air très 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 cool. Voilà. Alors pour finir sur cette section là,
on n'a pas causé de Astral Chain et de la déception de l'année qui est Demon Ex Machina.
Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Attention. Je demandais un par un de me dire quelle a été pour vous votre plus grande surprise de l'année, votre plus grosse déception de l'année, et le meilleur jeu de l'année, d'après ce que vous avez. Antix, tu vas commencer.
Mais c'est injuste, monsieur.
T'as pas eu le temps de te préparer.
Ouais, non, si, c'est bon, je sais pas. Le jeu de l'année, ça va pas être très compliqué, c'est Fire Emblem.
Putain, si.
Ah, ok, d'accord.
Non, c'est pas compliqué, je suis assez
d'accord. Pour moi, ça l'est pas. En tout cas, c'est le jeu qui m'a le plus parlé cette année. Il y a eu d'autres bons jeux, je pense notamment à Dragon Quest XI et Luigi's Mansion. Bon, globalement, Fire Emblem, c'est celui qui m'a le plus plu. Tout auquel j'ai joué, bon, vous pourrez écouter l'émission, on en a parlé, je pense que j'ai suffisamment expliqué pourquoi le jeu me plaisait.
Quand faites gaffe, on spoil sec, hein, mais...
C'est vrai qu'il y a ça aussi. Après, c'est quoi ? C'est la pire déception.
T'as plus grosse déception sur l'année ?
J'ai pas de grosse déception cette année.
Même Kirby's Extra Epic Yarn sur 3DS, ça t'a pas un peu déçu ?
Ça, j'y ai pas joué. Si, peut-être le jeu qui m'a le plus déçu, même si je trouve que c'est un bon jeu et je l'ai apprécié, c'était Wargroove. qui finalement n'est pas allé plus loin que juste je suis Advance Wars avec des personnages issus de l'univers médiéval. Ce qui était un petit peu décevant, surtout après avoir joué à Into the Breach l'année d'avant, qui était dans un style un petit peu similaire, bien plus intéressant.
Alors voilà, je précise, Wargroove qui reste un très bon jeu, mais maintenant effectivement ne dépasse pas le stade du Advance Wars, ça je suis assez d'accord.
Disons que c'était à chaque fois que je découvrais une nouvelle unité, je fais « Ah mais c'est cette unité d'Advance Wars en fait !» Et c'était, c'est le côté un petit peu décevant de se dire « Il y a des trucs sympas en plus, mais c'est très proche quand même d'un juste une nouvelle version. » Enfin, juste on a remodifié l'image de sa base. Et en plus, la dernière mission est vraiment nulle à chier, enfin... Tu joues que avec les héros du jeu, et si t'en perds un, tu recommences depuis le début, et c'est insupportable. Enfin, bref, c'était un petit peu ça m'a un peu gâché la fin du jeu, qui est quand même plutôt chouette. Après, en bonne surprise, et ma bonne surprise, alors c'était Tris 99. Parce que c'est une vraie surprise dans le sens où ça a été annoncé et c'est sorti nulle part, personne s'attendait à un concept comme ça, et c'est un jeu qui est super bien et qui est super addictif. Donc. Grosse félicitations aux mecs qui ont développé le jeu et qui ont eu l'idée, parce que je pense qu'on trouve un des meilleurs concepts de cette année.
Oui, effectivement, je pense que c'est quand même un très beau concept. Zergy, tiens, puisque tu faisais le malin.
Eh bien, je ne sais pas.
Plus grosse surprise, plus grosse déception, jeu de l'année.
Eh bien, j'aurais du mal à dire, parce que j'ai pas assez joué. Alors, en fait, pour moi, la plus grosse surprise, ça a été, je dirais quand même, Trial of Mana.
D'accord.
Que personne n'attendait. Les mecs ont ressorti genre 20 ans plus tard en disant « Oh, bah on va le sortir. »
Tranquille, tu vois, en toute tranquillade.
Sinon, plus grosse déception, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore assez joué à mes jeux, j'en ai plein en attente. C'est horrible. Il y a trop de jeux sur Switch. C'était plus facile du temps de la Wii U, il n'y avait rien qui sortait.
Moi, c'est vrai que j'ai fait un cauchemar il n'y a pas longtemps où mon backlog venait me manger dans mon lit. Parce que c'est à peu près ça quand même. C'est quand même assez compliqué à suivre. Et du coup, jeu de l'année, Zergy, il y a quelque chose qui t'a quand même marqué cette année plus que le reste?
Overwatch. Pas tellement. Non, même pas. Bah non, je veux pas acheter, tu déconnes. Non, je sais pas du tout. Il faudrait vraiment que je joue plus. J'ai quand même été agréablement surpris par Fire Emblem. Je m'attendais pas à apprécier autant.
Ah, il est peut-être un jeu de l'année en Fire Emblem.
J'ai peut-être 5 heures dessus, mais pour l'instant ça va, j'aime bien.
D'accord. Donc pas assez pour une année moyenne globalement. Putain, quel bâtard. Tu vois la globale année
positive.
Qu'on a. Globalement positif. Mecton, tiens, alors donc, plus belle surprise de 2019, plus grosse surprise. Déception de 2019, et jeu de l'année, d'après toi.
Alors, surprise, Astral Chain. Tu vois, j'hésite avec un deuxième, mais je pense que tu vas peut-être en parler.
Ah, peut-être.
On verra. Au pire, j'en mettrai un deuxième.
Donc, ouais. Au pire, tu en mettras une couche après. Y a
voilà.
Pas de soucis.
Donc, ouais, Astral Chain, je m'attendais pas à accrocher autant à un beat'em all. Et alors, peut-être que l'univers et le scénar m'ont aidé, mais vraiment du platinum en mode. Vas-y, on va faire un best-of de tout ce qu'on a sorti, on met tout sur la même cartouche et feu. Et c'est vraiment, vraiment très, très, très cool.
Alors, je me permets juste de confirmer, j'y ai pas assez joué, mais personnellement, j'avais fait genre vraiment une heure au moment où c'est sorti, parce que c'était en plein dans le tunnel de septembre, donc ça a été très compliqué. Il y avait Link's Awakening en même temps, enfin, il y avait plein de trucs. Et je m'y suis remis il y a pas longtemps, c'est très, 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 très cool. C'est le genre, effectivement, le style de jeu japonais qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, et ça fait plaisir de voir des développeurs japonais qui osent le grand n'importe quoi.
Sur une nouvelle IP en plus.
Non mais voilà, qui osent la fée des toilettes, qui osent la meuf dans un costume de chien qui te suit partout et qui te... les deux premières heures de jeu sont... T'as à la fois tout le génie du putain, le beat'em all marche super bien, les mécaniques de jeu marchent super bien, les contrôles marchent super bien, tout ça,
et
ça marche super bien.
Le rythme du jeu, à chaque fois que tu te dis bon, voilà. J'en ai fait le tour, boum, il y a un truc nouveau.
C'est exactement ça. Le truc marche hyper bien de ce point de vue-là, et en plus, les mecs se permettent des délires que sur à base de petites culottes et de trucs complètement japonais, quoi, que tu pourrais pas te permettre ailleurs. Voilà. Je te laisse la suite, hein, mais je voulais juste rajouter une petite couche sur Astral Chain, je pense qu'il le méritait.
Oui, clairement. Déception, je dirais Demon Ex Machina, mais alors pas à cause de son gameplay qui même s'il est répétitif, mais c'est le genre qui veut ça, est très bien fichu, ouais. là pour le coup, clairement, ce qui m'a manqué, parce que je m'attendais à ça, c'était, alors peut-être que je me le suis auto-survendu en fait, en imaginant une sorte de Zone of the Enders, mais sur Switch. Pour moi, il me manque un scénario. Il me manque quelque chose qui me donne envie tous les soirs de relancer le jeu pour voir un petit peu plus loin.
J'en parlerai après.
D'accord.
Voilà. Jeu de l'année, Mecton, attention, fais gaffe, hein, t'as Luigi's Mansion 3, t'as Astral Chain, t'as Super Mario Maker 2, te plante pas. Hein.
C'était un beau tunnel. Faut avouer, c'était un beau tunnel. J'hésite entre. Non, Astral Chain, c'est sympa, mais de là à dire jeu de l'année, c'est peut-être. C'est un excellent jeu. Fire Emblem est une tuerie. Et le génie de Luigi's Mansion, je suis obligé de lui donner ma voix.
Ah, tu vas pas faire que tu vas pas te faire que des potes. Hein.
Ah, c'est un bon jeu pour le coup. Je suis d'accord. Hein. Début mais un peu clairement... plan, mais après ça décolle quoi.
Voilà, c'est clairement putain, parce qu'Antix a parlé de Fire Emblem en premier. Je mets Luigi's Mansion dans la compétition.
D'accord. Tu vois son Fire Emblem, tu relances de Luigi's Mansion.
Exactement. S'il avait dit l'autre, j'aurais dit Fire Emblem.
Ok. Non mais ça me paraît legit.
Un petit ex aequo, s'il y a moyen à la fin, ce serait parfait.
Ce serait. Enfin, je sais pas. Alors plus belle surprise de l'année me concernant, parce que je vais terminer avant qu'on fasse une deuxième pause musicale et qu'on va parler un petit peu des perspectives 2020, on va surtout parler des deux trois petits événements qui vont se passer dans les deux ou trois semaines à venir pour la fin de l'année. Plus belle surprise de l'année, moi j'aurais dit Ring Fit Adventure.
C'est à ça que je pensais. Merci. Ouais.
Je savais que tu pensais à ça. Je tiens à préciser quand même, il y a un monsieur sur Twitter qui nous avait dit « Putain, j'ai perdu 8 kilos en une semaine ou deux semaines. Oui. » Toi, tu disais que tu as perdu 6 kilos.
Alors, 6 kilos sur Ring Fit et 2 dixièmes avec Nintendo Labo.
C'est à peu près ça. Moi, vous êtes tous des enfoirés parce que j'ai rien perdu du tout. C'est là que je me rends compte qu'en fait, j'ai plus grand-chose à perdre.
Après, je m'étais un peu laissé aller, j'avoue.
Voilà, moi non, donc effectivement, c'était pas bon.
Mais oui, ça marche.
Ah oui, ça marche. Moi qui ai déjà l'habitude de faire... J'ai quand même l'habitude de faire beaucoup de sport. Je fais 12 km de vélo par jour pour aller au taf. Je fais 30 minutes de gym ou de fitness ou de musculation tous les matins et tout ça. Là, je ne fais plus que du Ring Fit Adventure le matin. Et en un quart d'heure, 20 minutes, le truc me met une race. Et pourtant, j'ai l'habitude. Et je prends vraiment très très cher. Il y a vraiment des matins où je me dis « Putain, mais comment il peut être aussi dur le jeu ?» Et en plus, c'est cool parce que plus tu avances, plus tu vois des trucs hallucinants. Donc, je m'attendais pas du tout à ça. C'est le truc qui a été annoncé un peu en loose day. Apparemment, ils sont en rupture de stock au Japon, si j'ai bien compris.
Incroyable.
C'est quand même le truc incroyable. Non seulement c'est un bon jeu de fitness, mais comme Wii Fit était un jeu de fitness plutôt correct, et Wii Fit U était un meilleur jeu de fitness, je trouve, mais en plus, c'est un bon jeu tout court. Qui t'encourage à revenir et tout ça, et qui a des trucs un peu délirants, genre les deux marchands qui s'appellent Bichon et Bichette, enfin la traduction française, les mecs tu sens qu'ils se sont lâchés en mode de toute façon
les
personne ne lira jamais.
Chez Nintendo,
toujours ouais, non, voilà. Alors ouais. Pour cette année, les mecs qui font les traductions françaises chez Nintendo, pour cette année, franchement, on vous tire notre chapeau, parce que ça a toujours été méga quali, quoi.
Ouais, on reparle des noms des fantômes dans Luigi's Mansion.
Mais complètement, non, mais.
Ça m'a bien fait marrer. Hein.
Embruscade.
Ouais.
Franchement les gars, mais je pense qu'un jour il faudra qu'on fasse un article complet sur ces traductions qui nous ont fait triper parce que il y a vraiment de quoi faire. Voilà, donc plus belle surprise de l'année, Ring Fit Adventure. Je vais te rejoindre pour la plus grosse déception de l'année, pour moi ça a été Demon X Machina. Alors pas parce que c'est un mauvais jeu, il y a plein de choses qui marchent très bien dedans, les mécaniques de combat marchent très bien, à une exception près. Je me suis retrouvé très 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 souvent à court de munitions, dans certaines missions.
Ah.
Alors, j'ai tendance à bourrer comme un gros sac. Hein,
En foutre partout à côté.
Voilà, j'assume le fait. J'assume le fait de tirer dans le tas d'abord et de poser des questions après. Hein. C'est mon style de jeu. Hein. Moi, j'aime bien les gros scores qui s'affichent à l'écran, donc je bourre comme un sac. Mais la personnalisation de l'interface, la personnalisation du mecha, le gameplay de manière générale, c'est même si c'est que du 30 images par seconde, ça répond hyper bien. C'est hyper instinctif. Les retours, ils ont vraiment pris en compte tous les retours que les gens avaient fait depuis la démo prologue qui était sortie en mars ou avril et où les gens avaient dit faut pas mettre le turbo à cet endroit là, faut pas mettre machin, donc ils ont vraiment vraiment fait un gros effort sur la customisation des contrôles et tout ça. De ce point de vue là, ça marche vraiment très 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 bien. Il y a juste deux trucs qui sont vraiment très pénibles. Petit 1, il y a les décors d'émissions sont vraiment pas assez variés. C'est-à-dire que ça revient toujours au même décor, c'est quand même un peu pénible. Alors au début du jeu, c'est particulièrement lourd. Ça s'améliore un peu sur la fin, mais il manque quand même des trucs. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de renouvellement là-dessus. Et le deuxième truc qui est un peu pénible, c'est l'histoire, parce que c'est pas qu'elle n'existe pas, hein, c'est qu'elle est juste casse-couille. J'ai rien compris.
Non, mais elle est imbitable, elle est présentée tellement...
Et en plus,
sans aucune âme, sans...
C'est ça, puis en plus, alors je me suis dit au départ, peut-être que c'est juste pour se donner un style, mais putain, on comprend rien, quoi. Il y a des fois, c'est une cinématique, il y a des fois, c'est juste des dialogues écrits qui sont pas doublés, il y a des fois, c'est des dialogues écrits qui sont doublés. J'ai pas compris pourquoi les jumeaux, à la fin, ils se sacrifiaient de je sais pas trop quoi, pourquoi faire.
Non, puis toi, je mettais ça en parallèle avec Astral Chain qui est sorti juste à côté, où là, bon, l'histoire est simple, mais nom de Dieu, la mise en scène, quoi.
Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est un peu le jour et la nuit. Donc là, on te. Est-ce que je trouve Astral Chain, c'est un peu l'exact opposé de Demon Ex Machina. C'est-à-dire Astral Chain, les mecs te laissent découvrir l'univers par toi-même. C'est-à-dire que finalement, c'est en te baladant et en posant des questions aux gens et en récupérant des indices et en te baladant dans les petits morceaux de ville que finalement tu t'imprègnes de l'univers et on met une petite histoire à côté. C'est-à-dire que la narration a finalement assez peu d'importance, l'univers en a plus. Demon Ex Machina, tu sens que l'univers est riche et tu sens que les mecs ont envie de te raconter quelque chose. Mais putain, c'est imbitable. Bon, voilà, sans compter le fait qu'il faut enquêter. Bon, ça, voilà, on a bien compris.
C'est le genre de jeu japonais fauché dont je parlais tout à l'heure.
Bah, mais oui, peut-être qu'il est juste survendu, ouais.
Je sais pas. Moi, ce que je me dis, c'est que les mecs ont un potentiel pour faire un 2 qui serait très bien.
Voilà, je suis d'accord.
En changeant un peu la structure des missions, en essayant.
Variant les objectifs.
En variant un peu les objectifs, mais sans faire des missions d'escorte, s'il vous plaît.
Oh putain, c'est relou ça.
Non, et puis je pense que juste pour la mise en scène, on parle quand même d'un jeu de mecha, et je pense que tout ce qui est série de mecha au Japon, ça se trouve quand même facilement, donc il y a de l'inspiration à avoir là-dedans, quoi.
Et tu vois, ce qui est hyper dommage, c'est que de temps en temps, tu vas avoir une cinématique méga stylée. Mais genre une espèce de fulgurance, c'est-à-dire tout d'un coup tu dis putain ça y est le jeu se réveille, t'as 10 heures de jeu dans les pattes, le truc dit ça y est c'est parti, c'est-à-dire que t'as vraiment une cinématique où tu te dis putain le mec est en train de jouer un meilleur jeu que moi quoi, pas de problème, mais c'est ça qu'on veut voir dans une cinématique, c'est des trucs complètement délirants, et la cinématique d'après elle est hyper plan-plan où t'as 3 mechas qui sont debout et il y en a un qui pointe un fusil dans la direction d'un autre en disant ah je vais te tuer jusqu'à ce que tu sois mort, t'es là genre ouais ok, cool.
Et surtout, tu sens que les mecs, c'est des fans, parce qu'ils ont récupéré le designer de Macross. T'as deux personnages qui sont doublés par les mecs qui ont fait les personnages principaux de Gundam. Enfin, c'est un truc de malade, tu vois.
Mais ouais, mais pourquoi un tel gâchis, quoi? Pourquoi un tel gâchis? Alors que t'as des missions qui sont vraiment... En plus, t'as des missions qui sont vraiment super bien foutues. Il y en a une où t'infiltres une base souterraine, donc là, t'es obligé de te balader dans des couloirs et des machins, des trucs. C'est cool! C'est cool, t'arrives jusqu'au cœur du... Tu fais l'étoile de la mort, en fait. T'arrives jusqu'au cœur du réacteur, tu lui mets un missile dans la gueule, le truc explose, t'es obligé de t'échapper avec un chrono. Ça marche. Y'a pas de problème, c'est cool, ça marche, c'est stressant. Y a des bots qui apparaissent, y a des nouveaux ennemis qui apparaissent. Voilà. Le beau gâchis, c'est ouais, vraiment cette structure de mission qui est complètement débile. Le lion qui... Voilà, il manque la mayonnaise qui fait prendre le truc. Alors, je précise que j'ai toujours pas joué au mode online, mais que tant, faut vraiment qu'on s'en fasse un de ces soirs, parce que j'ai envie d'écrire un test dessus un peu plus complet pour simplement poser les idées que j'avais dessus. Et je trouve ça dommage de pas l'avoir fait, et je trouve ça dommage de pas avoir fait un bout de online pour compléter le truc, quoi. Donc, faut vraiment qu'on arrive à faire ça.
C'est un créneau, yes.
Et le jeu de l'année, je vais beaucoup vous surprendre. Fire Emblem.
Nous avons un gagnant.
Nous avons un gagnant. Fire Emblem qu'au départ j'y jouais pour le gameplay, qu'à la fin j'y jouais pour le scénario tellement ça m'a pris.
Et Dieu sait que c'est un exploit de te faire accrocher au scénario, c'est
moi,
ça.
Putain, c'est chaud du cul. Hein. Parce que déjà le scénario de Luigi's Mansion 3 il était trop compliqué pour moi, hein. Tu vois, c'est pour te dire. Hein. Et Ori and the Blind Forest, j'ai lâché la démo au bout de 10 minutes parce que j'en pouvais plus, quoi. La narration, c'était plus possible. C'est pour ça que Demon X Machina, c'est vraiment, enfin, c'est pour vous donner une idée, hein, c'est vraiment parce que le gameplay m'a vraiment bien botté avec ce système de, quand ils appellent ça un arsenal, ils rigolent pas, c'est-à-dire que t'es vraiment une putain d'armée sur pied. Tu voles, tu cours, tu fais des turbos, tu fais des dashs, tu changes d'arme, tu mets un bazooka, tu mets une épée, tu mets une double épée. Voilà, ça marche, pas de problème. Et c'est pour ça que j'ai réussi à finir le jeu, mais à la fin, je zappais tous les dialogues, quoi, j'en pouvais plus. Voilà, bon, Fire Emblem, non seulement je zappais pas tous les dialogues, mais j'ai grave kiffé ma race.
Bah oui, t'es cool, on est d'accord.
Mais j'avais vraiment l'impression de... C'était du niveau d'écriture d'un bon Game of Thrones.
Oui, mais c'est ça.
Et rien que ça, c'est cool. Je l'ai passé à un collègue qui m'a dit, bah voilà, mais en fait, le scénario, c'était le kiff. Lui, il a beaucoup moins kiffé les combats.
Le monastère, on avait peur que ça soit chiant et tout. En fait, un degré d'implication dans le truc.
C'est exactement ça. Et avec le recul, je me rends compte, parce que quand on a fait notre émission spéciale, nous n'avions pas tous fini le jeu. Certains l'avaient déjà fini, d'autres non. Et avec le recul, j'ai pas encore refait un autre scénario, mais je suis très tenté. Et avec le recul, je me rends compte à quel point c'est une idée de génie, parce qu'effectivement, tu t'accroches encore plus au personnage qu'avec le côté visual novel. Et ça, c'est vraiment très 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 cool.
Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse et qui hésitent à se relancer une partie, la dernière mise à jour a rajouté pas mal de choses, que ce soit en DLC ou non d'ailleurs, dans la route des Delgard, la version La Route Rouge, il y a un nouveau personnage qui est jouable.
Oh putain, excellent. Si c'est celui auquel je pense, c'est très bon.
C'est très probablement celui auquel tu penses. Il y a un nouveau personnage qui est jouable, et dans les DLC, t'as un nouveau personnage à récupérer, t'as de nouveaux costumes, donc il y a quoi s'amuser. Et si vous êtes prêts à attendre un petit peu le mois d'avril pour la dernière mise à jour, où apparemment on aura encore de nouveaux personnages avec des nouvelles quêtes et compagnie, il y aura moyen de se refaire... de refaire une route avec vraiment toutes les nouveautés et donc d'en profiter à fond, pas comme si c'était un nouveau jeu mais pas loin quoi.
Je pense qu'il y a donc je rappelle hein, c'est pas un vrai spoil hein, mais il y a 4 scénarios au total. Si vous en avez fini un, ça peut peut-être être intéressant effectivement de se payer le DLC ou d'attendre les dernières mises à jour pour en refaire un deuxième, pour tenter autre chose. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Il y a un moment, je suis vraiment très tenté de recommencer parce que le New Game Plus, en plus, est un vrai New Game Plus dans lequel il y a pas mal de petites améliorations type qualité de vie où tu as tout un tas de tutos qui sont zappés, tu as déjà des niveaux d'enseignement très élevés, donc tu peux aller un peu plus vite sur certains trucs. Donc, arriver, on va dire, à la partie très intéressante du scénario et celle qui est vraiment prenante, plus vite.
Voilà. Ça, ah oui, c'est avec quand même... le jeu normal, c'est genre 60 heures pour le terminer en prenant son temps. Avec un New Game Plus, ça peut se faire entre 20 et 30 heures selon... la quantité
scénario.
De combat que tu veux faire quoi.
Ouais. Puis oui parce qu'il y a des scénarios plus longs que d'autres aussi. Ouais. Il y en a des très courts, il y en a des très longs.
Moi je me garde le dernier scénario, celui de l'église pour la sortie du dernier DLC, et je prévois de faire une équipe uniquement composée de mecs issus du peuple à bas la noblesse et
le peuple.
Une armée communiste.
Et c'est pour ça que je fais la route où je soutiens l'église, évidemment.
La logique. Bon, je vais me faire un tout petit plaisir, là, juste avant qu'on fasse la toute dernière partie de l'émission.
Alors,
c'est une émission un peu longue.
N'oublions pas le jeu le plus hypé de cette année, Death Stranding.
Stop.
Le jeu où tu peux pisser et faire des bombes à la merde.
Pour le test et pour le dojo, je prévois d'y jouer un jour pour voir ce que ça donne.
Alors, pas pour le test, mais pour la troisième partie, je prévois d'en parler. Vous inquiétez pas, ça va le faire.
Est-ce que tu parles de la blague Kojima au cinéma?
Non.
Alors, basiquement, tu prends son jeu et tu le mets à 24 FPS.
T'es un bâtard. Tu pourrais faire la même chose avec les jeux de David Cage.
Ouais.
Sauf que ça ferait un très mauvais film, c'est ça qui est triste.
Il n'est pas déjà en 24 FPS.
Stop.
Pour être plus proche du cinéma.
Un jour, ils le feront. Donc, je me suis fait un petit plaisir sur la dernière pause musicale. On va réécouter un truc qu'on avait déjà écouté. C'est pas souvent que ça arrive. C'est le thème de Cass de Super Smash Bros Ultimate.
Mais oui,
c'est un des meilleurs remixes. Hein.
C'est un des meilleurs remixes. Le thème de Cass, c'est le piaf qui a un accordéon et qui se balade un peu partout dans Hyrule. Dans
non
Breath
mais
of the
je
Wild.
Demandais, il est jouable.
De quoi Cass? Non. Death Stranding.
Bah possible.
Kojima doit être jouable.
Et pour l'anecdote, le thème de Cass...
C'est comme ces jeux, tu ne peux pas le diriger.
Oui.
Pour l'anecdote, le thème de Cass, à force d'entendre l'accordéon dans Zelda, quand j'entends les accordéons dans le métro parisien, je me dis qu'il doit y avoir
un piaf.
Un sanctuaire pas loin.
Ah ben voilà, mais franchement, c'est excellent. Et donc, on va écouter ça, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes, et on se retrouve à la fin où on va aller très rapidement faire une petite perspective 2020 qui va être très légère. Et parler des 2-3 petites choses qui nous attendent d'ici la fin de l'année, puisque le Dojo Bar s'arrête pour cette saison, ça reprendra la saison prochaine, ne vous inquiétez pas, on vous oublie pas quand même, on a des trucs dans notre musette pour vous. Voilà, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes, à tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour.
Et c'est la dernière partie de cette émission. Je rappelle que si vous avez été très sage, peut-être qu'il y aura une émission quiz dans 2 semaines, mais c'est vraiment si vous avez été très sage.
En vrai, je pense qu'on va quand même la faire. Ouais, ça me fait marrer.
Simplement, ça prend beaucoup de temps à préparer une émission quiz, donc on pouvait difficilement la faire en même temps que celle-ci. On va commencer par nos petites perspectives pour 2020, c'est-à-dire les jeux qu'on attend, les événements qu'on attend éventuellement. Alors Zergy, oui, tu as le droit de dire la faillite d'Activision Blizzard.
On a dit qu'on n'a pas le droit à la paix dans le monde.
On n'a pas le droit à la paix. Alors voilà, Zergy, ta petite lettre au Père Noël pour 2020, épurez ton backlog.
Oui, du temps. Il y a trop de jeux sur Switch.
Qu'on passe la journée réglementaire à 32 heures par jour.
Ouais, ça va. Je fais toute ma semaine en une journée alors. Au niveau boulot, je veux dire.
C'est parfait. Non, mais t'as un jeu particulièrement que tu attendais ou tu fais au fil
alors,
de l'eau
Ah non, tu veux dire pour les jeux qui vont venir
pour les
2020.
Jeux pour les événements de 2020 que tu attends.
Alors, je sais que je vais me faire bâcher le cul parce que le jeu que j'attends pour 2020, c'est un jeu Sego. C'est Panzer Dragoon.
Ah, il y en a des biens. Non, je cautionne Panzer Dragoon.
Ça a été la petite surprise aussi, on l'a pas vu venir celui-là.
Non, ça c'est clair. Mais c'est un très bon choix, Panzer Dragoon, pour 2020. C'est effectivement un jeu qui est vachement sympa. Et qui fait plaisir. Et qui était disponible à l'origine que sur... Alors, je crois qu'il est la version Xbox.
Saturn, j'allais dire, non ?
Saturn et PC, le premier. Ouais. Oui,
Saturn, PC
ça.
Et Xbox, puisqu'il est disponible dans Panzer Dragoon Horta. Alors, ce que je trouve cool,
oui,
c'est qu'il n'y ait pas de remake de Panzer Dragoon Horta, mais il me semble que le Panzer Dragoon qui va sortir, c'est Panzer Dragoon 1 et 2, genre. Si je dis pas de bêtises. Enfin, les infos qu'on avait vues, il me semble qu'il était ça.
Le 1 sur la cartouche, le 2 en chargement.
Le Horta est dispo, je crois, en rétrocompatibilité sur la One de mémoire.
Tout à fait, ouais. En rétrocompatibilité Xbox 360 et Xbox. L'émulation Xbox sur Xbox 360 sur Xbox One.
Emulception.
Non, c'est un bon choix. Il y a Ikaruga aussi qui va sortir l'année prochaine, a priori, en physique.
En physique ? Oh, très bien.
C'est Nicalis qui l'édite, alors je sais pas s'il sortira en Europe ou pas.
Nicalis, c'est un peu des connards, donc leur filez pas de thunes, s'il vous plaît.
Oui, mais bon, après...
On les piquera tombés du camion.
On les volera.
Voilà, là, c'est bien.
Mettons une petite perspective pour 2020, soit des jeux, des événements, ce que tu veux.
Au-delà de... On a eu l'écran titre, on aura peut-être le menu des paramètres. Metroid Prime 4.
Nintendo, c'est les meilleurs pour te hyper un chiffre. Hein. Ils t'ont fait avec le 4, ils t'ont fait avec le 99.
C'est parfait. C'est parfait.
Breath of the Wild 2, c'est mort. Du coup, par contre, j'imagine bien, tu as une petite compile rétro, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword.
Encore une raison de plus d'enterrer la Wii U. Hein.
Ouais.
Alors, Skyward Sword, moi j'apprécierais un remake. Hein. J'étais assez client de Skyward Sword, j'avais vraiment bien aimé le jeu. Par contre, s'il te plaît, Nintendo, tu nous mets pas Wind Waker sur la cartouche et puis les deux autres avec des codes.
Non, c'est pas Capcom, on va pas déconner.
C'est quand même pute. Putain, Capcom, on a oublié de... Ah, mais mec...
On a oublié de bâcher Capcom et Konami.
Non, attends, ça va venir. Ça va venir. Je vous laisse pour la fin, ça va venir.
Alors, pour le coup, Capcom, ils ont quand même sorti des bons jeux cette année, donc ils s'en sortent bien.
Oui, ils ont aussi sorti des belles bouses.
Et des portages à la pisse.
Mais non, mais d'accord, mais Alien Isolation qui tourne pratiquement aussi bien que sur PS4, et alors qu'ils sont pas foutus de faire tourner Resident Evil 4 correctement, et Resident Evil 5, j'en parle même pas. Et Resident Evil 6, c'est encore pire.
Ah, il y a un 6, ok.
Oui, le 6 est sorti sur Switch. C'est lamentable, en passage.
Et je prends Xenoblade.
Tu prends Xenoblade. Ouais. Pas Animal Crossing.
Animal Crossing est déjà préco, il est à 45 balles à la Fnac avec une réduction de 10 balles si vous êtes adhérent. Je l'avais déjà oublié, tu vois, que j'avais précommandé le truc.
J'avoue que Xenoblade, je vais me le prendre, mais ça me fait chier, j'ai pas mal d'heures déjà sur la Wii.
Mais tu l'avais fini sur Wii, Zergy ?
Non, je l'ai pas fini, mais je dois avoir 40 heures dessus.
Alors attendez, Nintendo, si t'arrives à trouver un moyen de transférer la sauvegarde de la Wii vers la Switch via la carte SD, tu vas faire des heureux. Je ne dis que ça, hein, mais tu peux le faire, Nintendo. Tu peux le faire, c'est juste une question de volonté. Antix, perspective 2020, des événements dans l'industrie, des jeux, des
choses. Perspective 2020, moi ce qui m'intéressait, c'est les nouvelles consoles. Pas tant parce que j'ai envie de les acheter, parce que c'est la concurrence et que je m'en fouche un petit peu, même si j'ai une PS4 à la maison. C'est plus pour voir qu'est-ce qu'ils vont proposer de plus que ce que peuvent déjà faire la Xbox One et la PS4. sachant que avec Stadia et les offres de Xbox Pass, Xcloud et compagnie, on sort pas mal sur du cloud et compagnie, donc j'ai envie de voir ce que vont proposer Sony et Microsoft, savoir s'ils vont partir juste sortir sur ces trucs ou s'ils vont copier Nintendo et sortir une PlayStation portable mais qui se branche aussi sur la télé. Donc c'est la partie qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça va être les nouvelles consoles.
Écoute, avec le PSVR, si tu mets la PS5 dans ton dos, elle est portable.
Joli.
Joli. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et surtout, il y a un truc qui va être intéressant, c'est que là, on va avoir un gros écart de puissance entre la Switch et les autres consoles, et du coup, comment ça va se faire, comment ça va continuer pour la Switch en termes de jeu. La Switch Lite Pro, on m'a dit, on me dans l'oreille.
Switch, la Switch Lite Pro, celle qui se branchera sur ta télé en vrai. Alors, j'aimerais qu'un analyste. Alors, les analystes.
Mais qui ne sera pas portable.
Oui. Les analystes, ça me fait toujours un peu marrer parce que bon, c'est un peu comme les futurologues, quoi. Il y a une chance sur deux qui se bananent. Qui disaient, la Switch pourrait très bien se vendre encore 20 millions d'exemplaires par an pendant 2 ou 3 ans, ça poserait pas de problème. Et en l'occurrence. Peut-être pas pendant 2 ou 3 ans,
non,
ce serait quand même un peu tiré sur la corde. Mais un an de plus, un an et demi de plus de belles sorties, ça m'étonnerait pas. Surtout que j'avais vu un très joli graphique qui disait voilà, en fait, le nombre d'exclusivités sur Switch a augmenté significativement d'année en année. C'est-à-dire quand elle est sortie en 2017, il y avait finalement une grosse dizaine de jeux. En 2018, il y a eu. Une quinzaine de jeux, là maintenant on en est à un petit peu plus d'une vingtaine.
Ah, sachant qu'il y a beaucoup de jeux indépendants qui sortent en exclusivité sur Switch avant de sortir sur les autres consoles.
Pour les indés, oui.
Je pense à Into the Bridge, je pense à Gris. Hollow Knight aussi, d'abord c'est genre sorti un an avant sur Switch.
Ouais, tout à fait. Quelques mois avant, bon, c'est quand même. Ça fait quand même partie des trucs où. Voilà. Et personnellement.
Gris, putain, en indé de cette année.
Ça, non, il était l'année dernière celui-là, non ?
L'année dernière. En matériel cette année, mais l'année dernière on.
Je l'ai fait ce week-end d'ailleurs, c'était très très bien.
Moi j'espère très sincèrement, je finis, hein, que le monde suivra la Belgique et commencera à interdire les lootbox, parce que je pense que ça ferait les pieds à tout le monde. C'est le seul événement que j'attends important en 2020, d'un point de vue jeu.
Moi j'ai pas le temps de faire le jeu.
Surprenez-moi.
Doom.
Tu peux pas laisser le temps de faire le jeu, Mortal.
Bah vas-y, fais le jeu.
Bah en fait, je crois qu'il y a. Dans ce qui a été annoncé pour 2020, il n'y a pas grand chose qui me tente pour l'instant. Je mets un vœu pieux et j'espère une sortie de Bayonetta 3.
Ah putain, oui, c'est vrai, il y a celui-là aussi.
J'aimerais bien qu'il sorte un jour. Metroid Prime 4, je n'y crois pas un seul instant, bien entendu. Et non, mais j'aimerais bien un bon jeu surprise de la part de Nintendo, parce que c'est vrai qu'à part, Animal Crossing et Xenoblade, pour l'instant, 2020, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse.
On a eu le Mario, on a eu le Zelda, on a eu le Smash Bros, on a eu le Mario Kart. Ah, peut-être un Mario Kart 9, tiens. Ce serait. Mais je pense que Mario Kart 8 Deluxe se vend toujours hyper bien. Oui, là, c'est ça. Donc, je vois pas de. Enfin, il n'y a vraiment pas de raison d'en sortir un.
Star Fox 1.
Comment dire.
Star Fox 0 1.5.
Je dirais, je le disais en off, un portage de Mad World de la Wii à la 3DS. Moi, ça me ferait voyager. Bref. Et donc. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines ? Donc déjà, dans 2 semaines, il y aura une émission quiz, parce qu'en fait, c'est pas vraiment la dernière émission. Donc on va préparer gentiment le quiz, et on va essayer de rameuter le plus de monde possible pour faire un truc un peu rigolo. Et donc il y a 2 événements majeurs qui vont avoir lieu sur le dojo pendant les 2 prochaines semaines, et ça va alors peut-être se prolonger jusqu'à 2020, je sais pas exactement, on va peut-être te laisser un peu de temps. Le premier, ça va être un jeu concours. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre votre petite Switch, vous allez aller télécharger la démo de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2020. Oui, on va faire ça. Et vous allez...
Ce n'est pas sale.
Si, si.
Lavez-vous les mains après.
Ce n'est pas un bon jeu aussi.
Ce n'est pas un bon jeu, mais c'est bien pour ça qu'on le fait, c'est parce que c'est rigolo. Et donc, vous allez nous envoyer sur Twitter, par mail, par le formulaire de contact, c'est comme vous voulez. Vous allez nous envoyer vos meilleurs scores sur 3 épreuves, qui sont le 110 mètres haies, le saut en longueur qui est dans la partie rétro, et le surf qui est dans la partie moderne. Alors je préviens tout de suite, j'ai essayé le surf tout à l'heure, c'est injouable, donc c'est parfait, hein, je veux dire, c'est vraiment parfait pour un truc comme ça. Et donc, la personne qui arrivera à cumuler les meilleurs scores sur ces 3 épreuves-là se verra récompensée par un Wargroove Ultimate Edition en physique. Et oui, monsieur.
Ouh.
qu'on offre et qu'on envoie, même au Canada. On a eu beaucoup de participants au Canada la dernière fois, c'était un peu relou pour les gens pour envoyer les lots, mais c'est pas grave, on en verra. Et la deuxième place, il aura le droit de venir avec nous à la projection de Sonic le film.
Ah, avec toute 2020, voilà, ouais, voilà, on est vraiment voilà des la perspective bâtards. La plus importante en 2020. Le film de Sonic.
Donc voilà. Alors, je suis voilà, le son longueur 1964, oui. La perspective 2020 de bâtard, ce serait ça. Je précise que si on est vraiment des connards, le premier gagne les places pour Sonic et le deuxième gagne Wargroove. Ça, c'est si on est vraiment des bâtards.
N'oubliez pas qu'il l'a déjà fait.
N'oubliez pas que j'ai déjà fait. Voilà, donc le concours va être lancé officiellement sur Twitter dans les heures qui viennent, peut-être demain, comme c'est la grève.
Attention, il faut payer le jeu en liquide pour sentir l'argent partir.
Oui, c'est vrai, c'est important. Les places de ciné, il faut les payer en liquide.
Non, justement, il faut sortir le concours demain, parce que les gens qui vont être chez eux et qui ne pourront pas les bosser à cause
pourront
de la grève,
ils pourront jouer à Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, mais c'est parfait. Donc, je ne sais pas exactement combien de temps le concours va durer, j'aimerais bien pouvoir annoncer les gagnants au prochain Dojo Bar, surtout si on fait juste un quiz, donc ce serait vraiment super. Mais voilà, je pense que ça va être lancé à peu près ça, soit on fait une semaine, soit on fait un petit peu plus longtemps. Donc un jeu à gagner sûr, il y aura peut-être un deuxième lot, je sais pas encore quoi, j'hésite un petit peu, je suis pas encore sûr. Voilà, et le deuxième truc, c'est que pour la fin de l'année, on va vous demander de voter. Alors je pense qu'on va faire un vote sur Twitter, on va faire un vote sur Mastodon, et on va compiler les deux votes. Donc, peut-être qu'on va faire un truc genre Stropole ou quelque chose comme ça pour pas trop se prendre la tête, je ne sais pas exactement encore. Mais vous allez voter pour les premiers Dojo Connard Awards de l'histoire.
Mais dis donc, Portal, qu'est-ce que les Dojo Connard Awards ?
Qu'est-ce que les Dojo Connard Awards ? Eh bien, c'est très simple. Nous avons une magnifique statuette qui n'est pas encore terminée, qui est un gros doigt d'honneur réalisé intégralement en PQ utilisé cette année.
Ah, je pensais que ce serait avec les restes de carton de Nintendo Labo.
Non, même pas, j'aurais pu, mais même pas. Par contre, ça tiendra effectivement avec des bouts de ficelle, hein, donc pas de problème. C'est compatible VR. Et donc, ce magnifique trophée, nous l'enverrons avec notre argent, en colis, Simo, hein, payé par nous, avec une jolie lettre de remerciement, à celui pour qui vous aurez voté. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc, il y a plein de candidats, on n'a pas encore fini de recenser tous les candidats, mais ça va arriver très 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 rapidement aussi. Nous avons donc Activision Blizzard, hein, pour sa politique sur les DLC.
C'est ce que j'allais dire, j'espère que Bobby va apprécier la récompense.
Alors, le siège d'Activision Blizzard est à Vélizy, hein, je précise, c'est en région parisienne, donc on leur enverra leur trophée, il n'y a pas de problème. Capcom, pour avoir fait tout un tas de portages de mes couilles. Nintendo, pour leur politique à la con sur le mobile. C'est pareil, ils sont à Cergy-Pontoise, c'est pas très loin, on pourra leur déposer leur petit trophée s'ils le gagnent. Hideo Kojima, pour l'ensemble de sa carrière. Julien Chiez.
Lui, il est à Sarcelles, donc ça va.
Ça va. Julien Chiez, pour l'ensemble de sa carrière. Voilà, donc le Dojo Connard Awards 2019. Il y en a plein d'autres.
Ouais, faut pas oublier Quantic Dream.
Ils sont dedans. Attends, Kojima ils sont est dedans. À Sarcelles. J'ai pas compris.
Kojima est potentiellement à Sarcelles. Alors, je vous préviens, si c'est, si c'est Kojima qui gagne, je l'envoie au Japon, mais je sais pas où je vais l'envoyer. Kojima Prod, c'est tout. Par contre, il faudra quelqu'un pour nous aider à traduire en japonais le petit mot qu'on va rajouter dans la boîte. Pour honorer le grand gagnant, hein, du Dojo Connard Award 2019. Voilà, donc ça nous fait très plaisir. On est en train de compiler la liste.
On a un peu des connards avec Kojima quand même.
Non mais bon.
Autant les autres qui méritent.
C'est pas lui qu'on remercie, c'est son ego.
C'est pas lui qu'on remercie. Peut-être que c'est son ego qu'on récompensera et pas lui. Hein. Voilà, donc vous inquiétez pas, ça va arriver très rapidement. Tu peux le filer à Chiez, il lui donnera, oui. On peut le faire tourner aussi. Hein. Voilà, donc le Dojo Connard Awards 2019, ça va arriver très rapidement. On faut terminer et qu'on finisse le trophée, parce que je vais vous mettre une jolie photo du trophée dans l'article avant de vous faire voter. Le vote sera ouvert pendant à peu près une semaine aussi, normalement.
Parce qu'on est donc, nous aussi, on est des connards.
Voilà, et donc on va vous demander de participer activement. Je précise que la rédac du dojo est aussi nominée pour avoir créé le Dojo Connard Award 2019. Donc on va pouvoir peut-être s'attribuer le trophée à nous-mêmes, qu'on aura nous-mêmes fabriqué. Ça me fait très plaisir de faire ce genre de conneries. Voilà. D'ailleurs, au passage, on va encourager nos petits amis de Game Cult à participer aussi. Parce que j'en ai pas encore parlé, mais j'espère bien qu'ils participeront, parce que je sais qu'eux peuvent pas trop se permettre ce genre de choses-là, mais nous on peut. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui, cette émission a duré beaucoup trop longtemps, mais il y avait besoin de faire un gros bilan de l'année. On va se retrouver dans 2 semaines donc pour un super quiz. En attendant, vous aurez un jeu concours et un vote à réaliser. Vous inquiétez pas, on vous fera un joli résumé par écrit de tout ce qui va se passer, que ce soit le jeu concours, on va faire un bout sur Twitter, on fera un bout sur Mastodon, on fera un petit article fixe que vous pourrez retrouver très facilement avec toutes les modalités du concours, comment on compte les points et tout ça et tout ça et tout ce qu'il y a à gagner. Voilà. Les votants de jeux qu'on a à voir pour avoir voté des tardis qui en rajoutent une couche, je suis désolé. C'était parfait. En attendant, on vous retrouve dans 2 semaines. On vous fait de très très gros bisous. Et après, ce sera l'année prochaine. Voilà. Bisous, ciao tout le monde. Bisous. Bonne semaine.
Bye bye.
Amusez-vous bien. N'oubliez pas de venir voter pour tout ça. Ciao, ciao.
Des bisous.